Marceau à Boulevard 102.1.
Un petit spécial Point de Max et on en jase pour Jeff Fortin, Mathias Turcotte. Aujourd'hui, à la météo, c'est une superbe journée. Hey, d'ailleurs, Mathias, okay, on va faire ça direct en ondes. Je te donne comme mission, lève-moi ça, ces stars-là, que je vois ce beau ciel bleu-là. 21 degrés présentement, 24 degrés généralement soleillé pour aujourd'hui. Ça va être un petit peu plus frisqué ce soir, cette nuit à 9 degrés. Demain, 24 degrés, gros soleil. De la pluie, mais à partir de la nuit. Donc, on va être correct pour toute la journée et la soirée. Pour ceux qui auraient des activités de soir, comme les grands feux Loto-Québec, la grande finale demain. Pour dimanche, 20 degrés, 60 % de possibilité d'averse. On est très heureux d'être avec vous pour ce petit 2 heures de l'émission. On en jase. Mathias, est-ce qu'il y a quelque chose à la circulation?
Oui, ben je fais un tour parce que ça commence tôt le vendredi. Hein. Déjà, un ralentissement pour l'accès au pont Pierre-Laporte, direction sud, autant sur Henri IV que sur Duplessis. En ce moment, sur Henri IV, ça remonte jusqu'à 4 Bourgeois. Pour Duplessis, c'est jusqu'à Chemin Sainte-Foy qu'il y a un ralentissement. Sur Henri IV aussi, en plus du ralentissement pour le pont, il y a quand même un peu de ralentissement au niveau de Charest. Capitale direction est entre Pierre-Bertrand et Boulevard Masson, c'est au rouge actuellement. En direction ouest, le ralentissement qui se situe entre Laurentienne jusqu'à Bourg-Royal. Laurentienne direction sud, un peu d'attente pour accéder à Capitale pour le moment. Et je termine avec un ralentissement à Robert Bourassa, direction nord, hauteur Le Bourgneuf. Quand même un peu d'attente. Si vous voyez quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Je vous rappelle les meilleurs moyens de nous écouter. Il y a notre web radio sur blvd.fm. Les meilleurs moments s'y retrouvent. Également, notre application BLVD-101 disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. Et aussi, avec votre haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD-102.1 ». Et on apparaît dans vos oreilles. Mathias, avant de parler du scandale de cet autre candidat qui provient de Radio X, c'est-à-dire François Gariépy, candidat du PQ pour Côte-de-Beaupré, Charlevoix. Hey, imagine-toi donc, l'ancienne circonscription de Pauline Marois, comme nous le dit Karine Gagnon. Aujourd'hui, on est passé d'une première ministre à un animateur de Radio X. Je veux juste que ça applique que Pauline Marois n'a jamais habité à la circonscription. Elle nous a fait à croire qu'elle avait un chalet, mais il fallait qu'elle monte à sa chambre dans une échelle. Bon. Si quelqu'un a cru à ça, ben, coudonc. C'est mon seul mot. Je vais rester poli envers les gens qui y ont cru. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité? Parce que là, cette controverse-là prend toute la place. France-Hélène Duranceau s'est mis de la partie. Paul Saint-Pierre Plamondon a été obligé, tantôt, lorsqu'il s'expliquait sur l'abolition de Santé Québec, de répondre à des questions. Bref. On va vous faire entendre les propos de François Gariépy après les manchettes.
Oui, ben je commence avec le chef du Parti libéral, Charles Milliard, qui a fait un point de presse du côté de Lévis aujourd'hui. Annoncé 4 mesures phares pour les PME en point de presse. On s'est engagé, entre autres, à mettre fin au principe du plus bas soumissionnaire. On a dit qu'on allait se garder une marge préférentielle de 15 % dans les appels d'offres publiques quand les règles applicables le permettent. Donc, pour pouvoir, entre autres, prioriser par moment des entreprises qui sont locales au lieu des entreprises extérieures. On a aussi pris l'engagement du côté du PLQ de payer les entreprises avec qui l'État fait affaire dans un délai d'au plus 20 jours et de donner une première chance aux PME du Québec qui soumissionnent avec des idées innovantes de pouvoir obtenir des contrats sans nécessairement avoir déjà fait leurs preuves ailleurs.
C'est vraiment une bonne mesure annoncée par le Parti libéral du Québec. C'est ce genre de mesure-là que le Parti libéral va devoir mettre de l'avant s'ils veulent reprendre du poil de la bête dans les sondages parce que présentement, 13 % dans l'électorat francophone, c'est l'île de Montréal et rien d'autre qui les attend. D'ailleurs, Marc-André Leclerc nous en a parlé sur les ondes de Boulevard ce matin. Dans Marceau le matin, ça sera disponible sur blvd.fm à la fin de notre marathon de 8 heures, Mathias.
Oui, je vous rappelle d'ailleurs, puis ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans ce marathon, mais une rencontre qui a présentement lieu entre Dominique Leblanc et Jameson Greer pour... les négociations Canada-États-Unis, on est dans les dernières heures pour régler une entente finale. Je vous rappelle qu'il y a des tarifs douaniers de Donald Trump de 50 % qui devraient rentrer en vigueur ce soir à minuit. mais normalement, là, de ce qu'on comprend, on serait tout près d'une entente pour le moment. Et je vous rappelle que Simon-Jolin Barrette sera de retour aux prochaines élections dans la circonscription de Bordua. Il devrait l'emporter normalement, lui qui est présentement à 40 % selon les projections, le PQ qui suit à 33 % Certaines rumeurs circulaient hier à savoir si Simon-Jolin Barrette allait se représenter ou pas. Sa décision a été annoncée ce matin sur son compte X.
On va en parler tout à l'heure avec Étienne-Alexandre Beauregard qui va être présent à midi et demi dans le caucus du vendredi. Antonine qui est là du lundi au jeudi. Étienne-Alexandre a fait partie de la garde rapprochée de la CAQ en écrivant justement les discours de François Legault. Alors que moi, j'ai une question pour lui. Penses-tu que François Legault a appelé Simon-Jolin Barrette pour lui dire « Hey man, fais-nous pas ça, là. On est tellement dans la marde, là. »
J'ai hâte de l'entendre. Moi aussi. Parce que... je veux dire, hier, on y réfléchissait, puis je trouve qu'on a pris une décision quand même assez rapidement.
Très rapidement. Donc, on va poser la question à Étienne-Alexandre Beauregard. Capitale de Québec, hier, c'était le match boulevard. Merci à tous les auditeurs qui se sont présentés. C'est une victoire de 4-2 sur les Miners de Sussex County. Les Capitales qui s'en vont justement affronter les Miners là-bas pour le week-end vont être de retour à domicile mardi prochain. Encore une salle comble de 4297 spectateurs. Québec, vous êtes malade. Les Jays de Toronto l'ont emporté 5-1 sur les Rays de Tampa Bay hier. Les Jays n'ont pas perdu deux matchs consécutifs, Mathias, depuis le 21 juillet, donc depuis un mois. C'est ce qui leur permet de rester au plus fort de la course aux séries. Ils sont présentement à un demi-match des Rangers du Texas et des Twins du Minnesota. C'est un séjour de trois matchs à New York cette fin de semaine pour affronter les Yankees. Mais les Yankees sont privés de leurs deux meilleurs joueurs, Aaron Judge et Cody Bellinger, leurs deux meilleurs frappeurs. Donc, il y a une opportunité là pour les Jays d'aller gagner une autre série de trois matchs. Et les Alouettes de Montréal, c'est une victoire convaincante de 46-16 sur le Rouge et Noir d'Ottawa. Le Rouge et Noir d'Ottawa, ben c'est des records de médiocrité présentement, Mathias, pour le Rouge et Noir. Ils n'ont pas une victoire en 10 matchs
et mon Dieu.
Depuis le début de la saison. Wouch! Ça fait très mal. Du côté des Alouettes, c'est 9 victoires contre un revers. C'est l'équipe la plus haute présentement de la CFL. Ils donnent un show, mes amis, au niveau offensif extraordinaire. Tyson Philpott, l'excellent receveur de passe encore hier. 9 réceptions, Mathias, 75 verges de gain et 2 touchés. Donc encore un excellent match pour lui.
Ça fait une belle le midi.
Bon, cette émission-là s'appelle pas On en jase pour rien. Là, on va jaser de cette polémique autour de François Gariépy que tu as connu sur le terrain, justement, oui. Pour Choix Radio X, moi aussi. Un gars super sympathique, un gars
vraiment
sportif. Un gars qui est à l'image de Côte-de-Beaupré, Charlevoix, qui fait beaucoup de plein air, notamment du vélo.
Un gars local.
Oui, exactement, qui a été nommé par le PQ. Un gars, normalement, qui devrait gagner cette circonscription-là si on se fie à Québec 125, parce qu'il est en avance, là, 34-35 là, contre 20 pour le plus proche opposant. Mais là, des vieux propos de François Gariépy au sujet d'OnlyFans ont refait surface et ça a permis à France-Hélène Duranceau, qu'on avait en entrevue hier, la présidente du Conseil du Trésor, de déchirer littéralement sa chemise.
Ouais, ben je peux vous dire sa publication X là, qu'on a joint aux propos de François Gariépy. Je suis outré. Le candidat du Parti québécois dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré, François Gariépy, est disgracieux. Il semble trouver un plaisir vicieux à étaler sur la place publique ses impressions sur l'industrie de la pornographie ou à participer à des podcasts misogynes où il se moque des femmes de 55 ans et plus qu'il qualifie de « grannies ». J'espère que son chef va nous expliquer comment un tel candidat a pu aboutir dans sa formation politique, lui qui cherche à faire du Québec un pays. Il nous met définitivement de l'avant des modèles inspirants.
On va écouter justement les propos de François Gariépy.
J'ai checké un peu avec... mais non, je suis pas... j'aime pas ça, cette proximité-là, je pense. Je m'en calisse d'elle, tu sais, au sens que je veux pas qu'on ait de lien. Tu sais, si je me ramasse à checker ça sur Internet des madames tout nues, ça me tente pas qu'on ait de lien. Je veux pas qu'on se connaisse.
Ouais, ouais. Mais moi, regarder des madames tout nues, j'ai toujours trouvé ça spécial de payer pour. Tu sais. Il y a tellement d'affaires gratuites sur Internet que t'as pas besoin d'aller payer pour quelque chose.
Ben, ah, moi, c'est pas ça, là. Si, comment veux-tu qu'ils s'abonnent à notre Patreon, Chris?
Non, mais là, je parle
ça,
pas là. De Patreon, je parle des madames.
Oui, mais là, la musique gratuite, nus, là, c'est pas pareil.
Ils ont le droit de vivre, eux autres aussi.
Je vous avoue que je me demande souvent comment ces filles-là font pour vivre parce qu'ils font tellement avoir. Je veux dire, tu sais. En tout cas, j'ai un peu pitié pour les travailleurs du sexe.
Ils se font fourrer dans le
fond, hein? Ils se font fourrer à côté, ouais.
À côté.
Moi, j'ai souvent du sexe avec ma femme, puis j'ai jamais l'argent qui rentre.
Alors voilà, c'est les propos de François Guerrier. Puis bon, on s'entend que c'était dans un podcast qui vole pas haut, là. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Non, ça, on est d'accord.
Ça, on écoute les deux podcasteurs. Mais vous en pensez quoi? Trouvez-vous que les propos de François Gariepy sont controversés par rapport à OnlyFans, la pornographie, les femmes, justement, qui, sur OnlyFans, vendent leur corps pour faire énormément d'argent? Moi, je vais de mon opinion. Je trouve pas que c'est vraiment controversé. Tu sais, il répond à une question. Tu regarderais-tu de la pornographie sur OnlyFans? Il dit non, je veux pas avoir de proximité avec ces gens-là. J'aime mieux, si j'ai à regarder de la pornographie, regarder de la pornographie sur Internet où je sais que je ne connaîtrai pas les dits individus. Donc, pour moi, c'est pas tragique. C'est pas vraiment une controverse. À l'effet que je pense qu'à peu près 98% des hommes là, dans la société ont déjà regardé de la pornographie.
Mais non, mais à un moment donné, donc, on va tout être honnête l'un envers l'autre.
Exactement.
Là.
Donc, pour moi, c'est pas nécessairement une... c'est pas du tout une controverse. Même que, tu sais, moi, j'ai éduqué mes gars à entendre les fans, la pornographie, justement, parce que je suis sûr qu'on va dire à 16 et 18 ans, puis qu'ils doivent déjà en avoir regardé.
Mais tu sais, je veux dire... Moi, pour de vrai, là, je tombe en bas de ma chaise. Ben, pas à cause des propos de Gary. Pour moi, là, le gars participe à un podcast, il parle de sexe. Ben, bon, je vois pas l'exagération dans ses propos. Pour de vrai, là, je ne comprends pas l'outrage de France-Hélène Duranceau sur X qui publie ça comme si c'était un break. Tu sais, comme si Gary avait voulu insulter toutes les femmes de la planète, puis... Tu sais, même à un moment dans l'extrait, il dit qu'il y a pitié des femmes qui sont prises dans cette industrie-là. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre le petit... Parce que je pense pas que c'est une majorité de personnes pour le moment, là. Mais le mouvement qui commence à se créer pour tenter de canceller Gary François Gariepy en politique. Là.
C'est sûr que t'es, lorsque t'es associé à la station de radio Radio X, ben c'est sûr que t'es associé à une station de radio qui est très controversée pour les bonnes et les moins bonnes raisons. Ça fait en sorte que dès que t'es recrutant politique, on va venir scruter à la loupe ce que tu vas dire. Ceci dit, j'aime bien mieux un candidat comme François Gariepy qui laisse sur ses médias sociaux son passé que ce que Dominique Dumas a fait puis a tenté d'effacer 7 ans de sa vie avec des propos beaucoup plus majeurs que ce qu'on vient de retrouver là. On le rappelle, là, des propos anti-avortement, des propos contre les agriculteurs qui étaient des hosties de crosseurs, puis des propos où il se sentait comme une femme battue pendant la COVID. Là, j'en résume 3. C'est sûr que tu faut que tu t'attendes à ça. Mais honnêtement, en termes de controverse, s'il vous plaît, trouvez mieux, mesdames, messieurs. Là.
Dis-toi, si cette personne-là qui a eu un micro à choix pendant des années, c'est le pire qu'on a trouvé dessus. Là, honnêtement, là, je trouve qu'il s'en sort bien. Là. Si on commence à dire ce que François Gariepy a dit, là, c'est inacceptable, il ne devrait pas se présenter en politique, j'aimerais bien savoir ce que beaucoup de députés pensent. Selon moi, on pourrait juste... plus avoir personne qui se présente en politique. Là.
Exactement. C'est tout à fait correct. Je lis plusieurs textos qui rentrent. Merci de collaborer au 418-971-1021. Probablement qu'il y a des gens qui se font croire d'autres choses. Ouais, t'es qui se font croire que la pornographie, ça n'existe pas. Ben non, ça existe, puis c'est une entreprise très lucrative. Malheureusement, mais c'est le cas. François a simplement exprimé ce que bien des gens pensent et bien des gens vont dire dans leur salon s'il aborde le sujet. Entièrement d'accord. Pouah! Très drôle. Sérieusement, le PQ se fait servir la médecine que Duhem subit depuis des années. En effet, c'est l'ironie du sort. Je suis très d'accord. La CAQ n'a rien annoncé politiquement, donc attaque les personnes. Très d'accord aussi. C'est une attaque ciblée qui n'a pas sa place. On comprend qu'il est en mode léger, comme s'il jasait avec ses chums. Il a le droit à son opinion là-dessus, en toute transparence. C'est correct. Puis en même temps, la plateforme sur laquelle il est, c'est une plateforme payante où les gens... paye pour aller écouter podcast, donc tu peux bien faire le contenu que tu veux, tant qu'à moi. C'est la vie. T'sais, j'ai dit tout à l'heure que je trouvais pas que c'était un podcast édifiant, mais les gens ont le droit d'aller écouter. Puis ces gens-là ont le droit à leur liberté d'expression, puis ont le droit de produire le podcast qu'ils veulent. Donc à partir de là, j'ai zéro problème avec ça. Amen to that, Jeff, donc une personne qui est justement d'accord avec nous. Alors honnêtement, en termes de sortie publique pour France-Hélène Duranceau, ça fait dur. tu sais, je peux comprendre.
Je suis d'accord.
Je peux comprendre que François Gariépy est associé à une station de radio qui berce dans la controverse, mais de là à tenter de chercher la petite affaire qui ne fonctionne pas, pour moi, là, c'est pas du tout bien jouer la game politiquement. Je trouve que ça servir plus contre la CAQ que d'autres choses.
Ben, en fait, pour moi, c'est pas juste du côté de Francédène Duranceau. Je peux comprendre certaines personnes qui ont des comptes à rendre envers Choix Radio X, puis garde propre à ces personnes-là.
Oui.
Mais à un moment donné, il ne faut pas rentrer dans le personnel envers des personnes qui n'ont rien à voir dans ces comptes-là. C'est, pour moi, c'est le cas de François Gariépy. Là, à un moment donné, que ce soit des chroniques... Tu sais, par exemple, Karine Gagnon qui a fait une chronique ce matin contre François Gariépy. Rien contre Karine Gagnon personnellement, mais pourquoi avoir fait le choix de faire sa chronique en sur effet. Cette personne-là en particulier?
En effet, parce qu'il ne faut jamais que tu prennes le comportement que tu décris haut et fort. Karine Gagnon, avec raison, dit qu'elle est victime des animateurs de Radio X qui sont sur son cas.
C'est vrai.
Elle a raison. Si tu écoutes cette station de radio-là, sois honnête, c'est le cas. Mais Karine Gagnon sort la même médecine à Radio X qu'elle se fait donner. Donc, si tu dis « Hey, c'est pas correct ce qu'eux font d'un bord », tu peux pas le faire de l'autre bord. T'sais, moi, vous le savez, j'ai pas peur en ondes de dire mon opinion, puis j'ai pas peur de dire « Ouais, t'sais, Dominique Dumas, il l'a échappé avec ses propos controversés. » Ben, ça m'oblige à pas faire ce type de propos-là.
Fait qu'à un moment, moi, je suis complètement maladroit de Francédène Duranceau. Puis là, aussi, là, du coup, on cible, je tiens à le préciser, là, dans la publication de la ministre, on vient cibler des reportages que François Gariépy faisait, des débuts de 2010, 2010-2011. Ouais, ouais. Il faisait des articles particulièrement farfelus sur le sexe, dans Urbania, c'était des chroniques qu'il y avait. J'ai pas pris le temps de toutes les lire. Je sais pas si les propos là-dedans... De ce que j'ai vu, ça semble être des propos acceptables, là, mais encore une fois, farfelus, là, pour vous donner une idée, je vais vous lire les titres de ces reportages. Un de ces reportages qui s'appelle « L'art de crosser un pénis à l'huile ». Puis là, j'ai pas lu ce que le reportage disait tant que ça, mais ça me semble pas être des propos misogynes ou autres. Après ça, bon, là, je tiens à dire, là, je cite ce que François Gariépy a écrit comme titre. Là. « Ma grand-mère suce des grosses queues sur Internet ». C'est le titre de son reportage.
OK.
Encore une fois, j'ai lu en diagonale, mais ce qu'on dit, c'est le phénomène des personnes qui sont attirées vers les femmes de 55 ans et plus sur Internet. Le reportage qui parle de ça. Encore une fois, il n'y a rien qui m'a fait tomber en bas de ma chaise. Il y a son style à lui dans façon d'écrire et tout. Donc, bon, on peut questionner ces reportages-là.
Oh, oui, mais t'es, je sais.
Mais à un moment donné, c'était son travail dans le passé. Là,
exactement. Puis t'sais, si on regarde justement les médias Urbania, ben c'est les médias justement qui cherchent un peu ça, là, la controverse, l'exagéré.
Le clickbait.
Le clickbait. Donc à ce moment-là, ben c'est sûr que François a répondu à des critères de son média. T'sais, je veux dire, je vais peut-être faire une comparaison boiteuse, mais... ici à Boulevard, on a fait des séries de podcasts sur le sexe avec Audrey Pinchot, qui a reçu un gars déguisé en mascotte qui explique qu'il fait du sexe avec quelqu'un d'autre qui est déguisé en mascotte. Là. On s'entend, c'est exceptionnel. Puis on l'a fait ressortir justement dans nos différentes promotions parce que ça attire la curiosité des gens. Jean-Pierre, je pense que la plus grande controverse, c'est l'outrage exagéré de Mme Duranceau. Je trouve que parmi les intervenants du podcast, Gary est le plus posé. Entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment lui le plus posé des trois.
Puis on a reçu Christian qui a écrit par texto Duranceau devrait... Françaline Duranceau devrait écouter sexe oral. Elle n'est pas prête pour ça.
Non.
Puis j'ai pas le choix d'être d'accord. Là,
c'est
des,
vrai.
Des podcasts de sexe, il y en a, puis il y en
ben
a,
oui.
Puis il y en a sur Internet. Il n'y a pas eu de gros... Tu sais, il n'y a pas de contre... Pour moi, on est en 2026, il n'y a pas de controverse à parler de sexe. Là.
En plein ça.
J'ai beaucoup de difficultés à comprendre la sortie, puis à quel point on s'offusque pour de simples propos reliés à la sexualité que François Gariépy a tenu par le passé.
Très d'accord avec toi. Quelqu'un qui dit « Très d'accord avec vous pour Karine Gagnon ». Ouais, il faut être conséquent dans la vie, les amis. Moi, là, j'y tiens énormément, chers auditeurs, chères auditrices. Je sais qu'on a des nouveaux auditeurs, nouvelles auditrices qui se sont joints à nous, justement, avec l'arrivée de Nico qui s'en vient dès lundi. faut être conséquent dans ce qu'on dit, faut être conséquent dans ce qu'on pense. Puis si on dit que quelqu'un fait de l'intimidation sur moi, ça ne me donne pas le droit de reproduire un comportement d'intimidation. Il faut trouver d'autres alternatives et d'autres moyens, justement, pour se faire entendre. C'est pour ça que j'amène cette critique-là sur le travail de Karine Gagnon qui... t'sais, fait de l'exagération sur Radio X autant que Radio X fait de l'exagération sur elle.
Puis pour de vrai, moi je trouve ça intéressant parce que tantôt, le Parti québécois était en point de presse pour défendre mm-hmm. les propos de François Gariépy. Puis de ce qu'on comprend, là, il reste dans le parti, il reste candidat. Pour le Parti québécois, cette controverse-là, j'ai envie de te dire, c'est presque gagnant.
Vas-y donc.
Parce que là, la controverse est partie. Puis j'ai l'impression que la majorité des personnes regardent ça puis se disent, ben voyons donc, les propos, ça pas... Tu sais, les propos, c'est vraiment pas mm-hmm. si pire. Puis voyons donc pourquoi on voudrait canceller ce gars-là. Mais ça, là, quand on cherche à canceller des personnes pour des propos qui sont pas si pires, ça plaît beaucoup à l'électorat de droite.
Ouais.
De dire, ben voyons donc, France-Hélène Duranceau a pas d'allure. Puis j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être aller chercher justement l'électorat de droite qui pourrait s'associer au PQ en voulant défendre François Gariépy. Fait qu'au final, là, j'ai presque l'impression que c'est un pari qui a été payant pour le chef du PQ.
J'aime beaucoup ce que tu dis, puis on va parler dans quelques instants avec Étienne Alexandre Beauregard du PQ, du PCQ, qui se concurrence pour les électeurs nationalistes de droite. Ça rejoint exactement le propos d'Étienne Alexandre Beauregard. Je crois bien que le PQ va garder François Gariépy en poste avec ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je dois t'avouer que j'ai eu un certain doute, Mathias, dans les dernières heures, parce que François Gariépy était censé être en entrevue avec nous jeudi. C'était pas possible. Il était censé être avec nous aujourd'hui, confirmé. 11h30 dans le point de Max, puis finalement, on a cancellé tard hier soir. Fait que je me suis dit, coudonc, sont en train de préparer sa sortie? Mais là, de la façon que Paul Saint-Pierre Plamondon s'est exprimé dans les dernières minutes, dernières heures, je suis convaincu qu'on va laisser François Gariépy comme candidat dans la cour de Beaupré-Charlevoix.
Oui, bien, c'est peut-être juste qu'on voulait attendre que le chef prenne la parole sur le sujet.
En effet,
avant
c'est un
aussi,
excellent
là.
Point. Donc, si vous avez quelque chose à aller sortir du placard de François Gariépy, ben, mesdames et messieurs des autres partis politiques, trouvez quelque chose de mieux, car dans nos réactions par texto 418-971-1021, 100% de nos auditeurs trouvent que c'est une controverse galvaudée et exagérée. Et je le redis, pour être conséquent, moi, je suis content que François Gariépy se présente en politique et n'efface pas sa vie sur les médias sociaux comme Dominique Dumas l'a fait pour le Parti conservateur du
Puis
Québec.
Tu sais, pour revenir à France-Hélène Duranceau qui veut défendre les femmes fortement aujourd'hui en dénonçant les propos de François Gariépy, je vous rappelle que c'est la même ministre qui avait dit que les coûts des projets de construction de maisons pour accueillir des femmes victimes de violences conjugales étaient trop élevés.
Ah, gadons ça, toi!
Fait qu'on pouvait pas les construire parce que c'était trop élevé pour construire ces mêmes maisons-là.
Ouais, puis là, ben, ah, quand gadons ça, on a des records de féminicide cette année. On a une personne sur deux victime de violences conjugales qui a pas accès à une maison pour protéger les femmes violentées. Ça, ça aurait été des gestes pour prendre soin des femmes, Madame Duranceau. Pas mal plus que votre petit X de tout à l'heure. Mais bon, ça, Mathieu, j'aime ça quand tu me ramènes des éléments de même d'information qui permettent de comprendre encore plus comment France-Hélène Duranceau n'a pas pris soin des femmes dans son mandat de 4 ans et qu'elle se promenait, rappelons-le, avec des Louboutins.
Hey, petit tour sur la route, là, parce que ça s'est détérioré au cours des dernières minutes. L'accès au pont Pierre-Laporte qui est de plus en plus difficile en direction sud de Henri IV, il y a un ralentissement à l'entrée des ponts. Ça remonte ça remonte jusqu'à Wilfrid Hamel, j'ai envie de vous dire. Là, c'est pas complètement bouché tout le long, mais c'est un ralentissement quand même assez constant. Sur Duplessis, c'est entre l'entrée des ponts et chemin Sainte-Foy que ça se passe surtout. Capitale direction est, le ralentissement qui est concentré entre Robert Bourassa et boulevard Masson. En direction ouest, c'est entre Laurentienne Et ça remonte pas assez Beau-Royal pour le moment. Là, j'ai envie de dire, c'est un ralentissement par-ci, par-là dans le secteur. Leur ancienne direction sud, ralentissement pour prendre Capitale. Je termine avec Robert Bourassa, direction nord, hauteur Le Bourgneuf, qui a quand même pas mal d'attente dans le secteur. Et bien sûr, quand même, vous mentionnez, là, ami de la rive sud, 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy, c'est au rouge. Si vous voyez quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à nous texter. 418-971-1021.
Étienne-Alexandre Beauregard vient s'installer avec nous dans quelques instants à l'émission On en jase. Écoute bien ça, Mathias, il vient de m'envoyer un breaking news. La Primo Mobile, l'influenceur Olivier Primo partira en tournée électorale pour qui? Pour la CAQ. On jase de ça au retour. L'influenceur, sûrement le plus suivi au Québec, va appuyer la CAQ.
Mais pas comme candidat, c'est ça qu'on comprend.
Pas comme candidat, il va faire plein de choses pour la CAQ.
Attends, c'est particulier, j'ai hâte d'entendre Étienne Alexandre.
C'est la Coalition Avenir Québec qui se paie l'influenceur et entrepreneur Olivier Primo afin qu'il parcourt les routes du Québec pour la promotion de l'équipe Fréchette.
Hey, c'est une première, ça.
Oui, puis je vais être conséquent dans ce que j'ai dit pour mon ami Farnel Morisset. J'ai dit, Farnel Morisset, à partir du moment où tu te présentes en politique pour le Parti libéral du Québec, ça va être tough pour toi après ça d'être un influenceur crédible que les gens vont dire, ouais, les propos de Farnel Morisset sont objectifs. Ben, je pense la même chose pour Olivier Primo.
VAR 102-1.
Oyez, oyez! Message à Bruno Marchand. Message à tous nos politiciens qui pensent qu'à Québec, on n'a pas besoin d'un troisième lien, que c'est anecdotique quand il y a trop de trafic puis les gens sont pas capables de passer. Hé, boy! Je regarde par la fenêtre puis c'est bouché jusqu'à Laurentien. Mais c'est anecdotique. Bruno, prends ton chauffeur, prends ton char, va-t'en dans le trafic. Tu nous parleras du troisième lien après, qui sert à rien. Parce que Mathias, t'es bouché bien raide.
Oui, oui, on est vendredi, midi 33 pour le moment. Puis sur Henri IV, direction sud, pour accéder au pont Pierre-Laporte, c'est très, très difficile, là. Excusez-moi.
Ah, prends ton temps.
Le
ralentissement. On est juste rendu à 6h30 de suite de radio, c'est pas grave.
Ouais, est-ce que je suis comme chamboulé par le ralentissement vers les ponts en ce moment. Non, mais plus sérieusement, sur Henri IV, là, ça commence pour l'accès au pont Pierre-Laporte. Ça remonte pas assez Wilfrid Hamel, là. Fait qu'on est rendu que ça remonte jusqu'à la 40 actuellement, le ralentissement. Fait que c'est complètement bouché, comme sur une heure de pointe. Sur Duplessis en direction sud, ça remonte jusqu'à la 40 aussi. Vous mentionnez qu'il y a quand même un accident dans Henri IV direction sud, c'est à Bretelles pour autoroute Duplessis qui est bloquée. Puis l'accès pour le pont de Québec, la voie de droite qui est bloquée. Fait que probablement qu'il y a une partie du ralentissement qui est expliquée par ça aussi. Capitale direction est, hauteur Robert Bourassa, un ralentissement aussi, c'est au rouge. Robert Bourassa direction nord pour prendre Capitale, justement, un peu d'attente. En direction ouest, toujours sur Capitale, c'est entre Laurentienne, ça remonte jusqu'à Beau-Royal pour le moment. Laurentienne direction sud, c'est bloqué, comme tu l'as mentionné, Jeff, pour accéder à Capitale. Et je me transporte sur la rive sud parce qu'il y a quand même un bon ralentissement, sans surprise, qui s'est installé sur la 20 direction ouest entre Taniata. Ça remonte jusqu'à Monseigneur Bourget présentement et en direction est à hauteur de Taniata surtout. Si vous voyez quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Par texto, je confirme, c'est l'enfer. Viens de finir la job. Merci Bruno Marchand de Québec solidaire. Hey, je vous dirais que Bruno Marchand est plus à gauche que Québec solidaire présentement. Québec solidaire a parlé de la fatigue climatique cette semaine en entrevue éditoriale Ruba Gazal avec le Journal de Québec. Et Bruno Marchand, lui, a dit que sa priorité, c'était de combattre les changements climatiques. Fait que Bruno Marchand est rendu plus à gauche que Québec solidaire. Qui l'aurait cru? Hey, super message qu'on vient de recevoir de Catherine. Puis je crois que c'est une nouvelle auditrice parce que c'est le premier texto qu'elle nous envoie. C'est concernant la polémique François Gariépy et ses commentaires sur OnlyFans fait dans un podcast il y a de ça plusieurs années. Ce qui me fait de la peine en tant que femme, c'est encore d'entendre des discours de pauvres femmes prostituées qui ne se respectent pas. Mais la réalité de OnlyFans, une grande majorité de femmes libres et bien dans leur corps font juste profiter du besoin le plus criant de la population masculine, le fantasme sur les belles femmes. Le sexe existe depuis toujours et existera toujours. Faut laisser libre et s'exprimer dans le respect, surtout quand c'est un secteur marginal. Good job, les gars. Bisous, Catherine. Catherine, merci pour ton excellent commentaire. Et merci d'être à l'écoute de l'émission On en jase. Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là. Bon, les partis politiques, Mathias, faut qu'ils changent leur bonne vieille stratégie. On peut plus faire comme dans le temps, acheter une page de publicité dans un journal, puis se dire que tout le monde va le voir parce que les gens sont maintenant rendus sur les médias sociaux. Mais là, je pense qu'on vient d'atteindre une stratosphère différente, alors que c'est désormais officiel. Olivier Primeau, après des semaines de spéculation, ne sera pas candidat pour la CAQ, mais en tant qu'influenceur, il va être payé par la coalition Avenir Québec pour parcourir les routes du Québec pour faire la promotion de l'équipe Christine Fréchette. Qu'est-ce qu'on en pense au niveau éthique, au niveau stratégique? On en parle avec Étienne-Alexandre Beauregard, chroniqueur politique pour Boulevard 102.1. Étienne-Alexandre, comment vas-tu?
Salut Jeff, salut Mathias, ça va très bien, vous?
Ça va super bien. Étienne-Alexandre, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là où Olivier Primeau va s'en aller parcourir le Québec avec Christine Fréchette et va envahir ses médias sociaux de commentaires et je dirais même de publicité positive pour la CAQ?
Ben écoute, je pense que c'est vraiment une première. Là. Comme tu disais, moi, j'ai pas souvenir. Puis même ailleurs, je suis quand même la politique internationale. Puis on a vu, oui, des influenceurs là, dans la dernière campagne qui sont positionnés en faveur de M. Trump notamment, d'autres qui étaient plus proches du Parti démocrate. Mais c'est assez rare, en fait, qu'on a vu là, des gens qui sont directement payés par un parti sous le mode d'une publicité électorale pour pratiquement faire partie de la tournée ou avoir une tournée parallèle, comme c'est le cas ici. Écoute, moi, mon côté diplômé de Sciences Po a l'intérêt juste purement scientifique de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va faire monter la CAQ dans le vote des jeunes? C'est probablement pas un accident, d'ailleurs, considérant que si tu regardes les derniers sondages, la CAQ est en bas de 10% chez les jeunes. Là. Je veux dire, ouais. L'offre politique que Mme Fréchette met de l'avant semble plaire aux 55 ans et plus, et à pas grand monde en bas de ça. Donc, c'est sûr que M. Primeau, on s'entend, probablement que la majorité des gens de 55 ans et plus ne savent pas qui est Olivier Primeau, et c'est tout l'inverse pour les plus jeunes. Fait que j'imagine que c'est peut-être une tentative de contrebalancer comme ça.
Mais tu ressens-tu un malaise avec ça? Je sais pas, moi je vois ça, puis je me dis, Olivier Primeau, qui se présentait un peu comme neutre au cours des dernières semaines, là, d'un coup, va être payé pour faire de la promotion pour la CAQ. Mais est-ce que toutes ces publications vont comme être indiquées clairement qu'il est payé pour le faire? C'est comme si on met une publicité dans les bouches de quelqu'un que plusieurs personnes vont regarder puis vont pas savoir nécessairement que c'est une publicité, là.
Ouais, ben en fait, ça, c'est pas vraiment différent de la commandite que la plupart des influenceurs vont recevoir. Hein. Je veux dire, le modèle de l'influenceur, c'est ça. C'est d'être une personnalité auquel les gens s'identifient, que les gens écoutent, et en quelque sorte, tu marchandes ta parole un peu, puis je dis même pas ça de manière péjorative, à des gens qui veulent faire la promotion de choses X ou Y. Là, c'est pas vraiment différent, en fait,
ouais,
de tous les autres.
Pour des
qui vont faire des pubs de parfum ou de shampoing.
Ouais, c'est ça, mais t'as-tu un malaise que ce soit avec des partis politiques que ce mécanisme-là soit effectué?
Ben écoute, c'est sûr que ça peut mener à des questions, mais écoute, moi je pense que si malaise il y a, c'est plus dans les causes politiques que M. Primeau essayait de pousser lui-même. Là, on le sait, toute son histoire de claim d'eau que lui-même a acheté et tout. Moi, sur ce point-là, je peux comprendre que les gens auraient des malaises parce que à partir du moment où t'es bénéficiaire financier de quelque chose, ben là, si en plus tu montres une affection pour un parti en particulier qui ça donne un seul au pouvoir, on peut commencer à penser ça. Après, M. Primeau, moi, je les ai suivis, ses prises de position. Là, je suis sur Twitter, sur les réseaux. Ça me semble être un gars qui était globalement nationaliste, pas souverainiste, qui penche centre-droite. Il a fait quelques entrevues aussi avec M. Poilievre. Fait que, dans la mesure où il semble être CAQ compatible, bon, dans la mesure où Mme Fréchette va encore parler aux gens qui sont de centre-droite, s'il ne se trahit pas lui-même, je vois pas ce serait quoi le mal là. C'est sûr que si c'était un influenceur woke qui se mettait à être payé par la CAQ, là, tout le monde dirait « OK, mais ça vient d'où? »
Non, mais, en effet. Écoute, moi, je vois ça comme une façon d'innover. Là. Peut-être c'est moi qui le prends trop à la légère, mais je vois ça comme une façon d'innover pour les partis politiques. Il va se faire verser un cachet. Ça va être compris dans les dépenses électorales. Il a dit qu'il... il l'a pas dit, mais c'est le bureau parlementaire de Québécois qui a mis la main sur l'information comme quoi, par la suite, il va verser l'argent à une œuvre caritative. Donc ça, je pense que ça va venir taire plusieurs critiques. Et dès le 7 septembre, il met Beach Club sur la glace. Il va également là, prendre ses précautions par rapport à ses autres activités entrepreneuriales. Donc, je me demande si c'est pas une bonne innovation de la part de la CAQ, s'ils sont pas précurseurs de quelque chose.
En même temps, vous le savez comment ça fonctionne dans la vie. Quand on essaye quelque chose de novateur comme ça, si ça fonctionne, puis que finalement la CAQ remonte de à peu près rien à premier parti chez les jeunes, là, mettons qu'on exagère,
ouais.
C'est sûr que tous les partis vont faire ça à la prochaine campagne, je vous le dis d'avance.
C'est clair.
Parce que les gens sont comme ça. Puis d'ailleurs, moi, pour avoir travaillé justement dans ce genre d'appareil-là, des fois, quand tu essaies de proposer des trucs qui sortent un peu de la boîte comme ça, puis je dis pas que j'ai proposé ça ou que je l'aurais proposé, mais les gens vont faire comme « Ouais, je suis pas sûr. » Mais à partir du moment où ils voient quelqu'un, que ce soit à l'international ou un autre parti qui commence à le faire, ben là, c'est « Hey, là, comment est-ce qu'on a notre propre version et tout. » Fait que je serais pas surpris même que des partis commencent à le faire, peut-être pas avant la fin de la campagne parce que c'est un peu tardif pour se trouver un influenceur. Mais écoute, est-ce que ça va devenir une pratique récurrente au Québec? Peut-être pas, mais je pense que ça va dépendre de ça. C'est-à-dire
ça
que s'il y a vraiment
résultats.
Des résultats, les autres vont vouloir faire pareil. C'est la bête politique est comme ça, c'est une compétition. T'sais.
Et c'est aussi détaché de l'événement Loïs Le Fou and Friends qui devait se tenir le 29 août prochain, évidemment, là, depuis que Loïs Le Fou a fait les manchettes pour les mauvaises raisons dans le projet de Jonathan Médusa. Du côté là, des textos qui rentrent, ben Jean-Pierre nous dit « J'ai un malaise avec ça. Est-ce qu'il va s'inscrire au registre des lobbyistes? » Penses-tu qu'il a besoin de le faire, Étienne-Alexandre?
Ben, c'est-à-dire que le registre des lobbyistes, c'est quand tu lobbies le gouvernement.
Ouais, c'est ça.
C'est
là.
Sûr que s'il y a des demandes à faire envers le gouvernement, ben, il faudrait qu'il le fasse ou au moins qu'il enregistre le lobbyiste qui l'engage. Mais s'il il fait de la promotion d'une cause auprès des Québécois, ça, c'est pas compté comme du lobbying. Ouais. Là, donc, il n'y a pas... On n'est pas lobbyiste quand on défend des idées dans l'espace public.
En effet, et là, par texte, on a des excellentes suggestions, comme le PQ et François Gariépy devraient engager comme influenceuse le OnlyFans d'Isabelle Desjardins. On a également les libéraux qui devraient engager Katy Perry, pourquoi pas. Donc, c'est des suggestions qu'on a là, par texto 418-971-1021. Continuez à réagir sur cette nouvelle. Parlant de la CAQ, Simon-Jolin Barrette décide finalement de se lancer après réflexion. T'as été très près de François Legault, t'as été dans son cabinet. Penses-tu que François Legault, il a lâché un petit coup de fil en disant « Hey, mon Simon, là, si tu débarques, toi, là, on est fait avec les nationalistes.
» Je peux pas spéculer sur ce genre de choses, mais en même temps, ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, juste que le questionnement ait été émis. Parce qu'avant, M. Jean Barrette, il n'avait pas donné d'indication qu'il ne voulait pas se représenter. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a 48 heures, Benoît Charrette, qui est ministre des Transports en ce moment, qui lui non plus n'avait pas donné d'indication qu'il ne voulait pas se représenter, a dit qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat dans Deux-Montagnes.
En effet.
Je pense que ça s'enlignait pour être une très mauvaise séquence pour Mme Fréchette, là. D'autant plus que si on parle de la candidature, pas encore confirmée, mais pas mal comprise, de Geneviève Peterson, qui a à moult reprises dit son désaccord avec l'agenda identitaire de la coalition Avenir Québec. C'est sûr que peut-être que ça fait partie des facteurs où M. Jolin Barrette a dit « Oh boy, est-ce que j'ai encore ma place ici? » Mais c'est sûr que si tu perds un gros morceau comme ça, M. Jolin Barrette, qui ça, l'ancien employé de la coalition, peut vous le dire, c'est la personne la plus appréciée des militants.
C'est
quand
clair,
vous allez dans un congrès, c'est celui qui a toujours les plus gros applaudissements. Puis il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui étaient déçus que ce ne soit pas présenté à la succession de M. Jolin Barrette, de M. Legault, par contre, parce que, en fait, justement, c'est quelqu'un qui est apprécié, c'est quelqu'un qui a un bilan aussi. Là, quand on parle des résultats de la CAQ, notamment sur le dossier nationaliste, la loi 21, la loi 96, c'est lui. Fait que c'est une figure qui est très appréciée, très crédible. Puis c'est sûr que si tu perds un gros morceau comme ça, tu rentres, en fait, en campagne là, avec... une ou deux prises contre toi. Là.
Hey, Geneviève Peterson, ça sort de où, ça, Étienne-Alexandre, toi qui as été dans la CAQ, dans l'Assomption, c'était la circonscription de François Legault. François Legault, identité, nationaliste, se présentait comme de droite économique, puis là, on s'en va chercher une candidate woke pour la même circonscription. Quelle erreur de Christine Fréchette!
Ouais, ben écoute, c'est d'où ça sort ça, moi je le sais pas, je ne suis plus dans le secret
c'est
des
ça,
yeux,
hein?
Je profite maintenant de ma posture d'analyste non-partisan.
Mais t'as-tu tombé des nues en voyant ça?
Ah ben oui, mais je peux te dire aussi que je suis pas le seul, hein, parce que avant hier soir et hier matin, la quantité d'employés et d'ex-employés de la CAQ qui m'écrivaient en disant « Peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? »
était ma CAQ,
quand même assez phénoménal. Et puis, ben, l'affaire, c'est que ça va être un vrai défi. Puis moi, je pense pas que c'est terminé, cette affaire-là. Parce que, bon, Mme Peterson a comme confirmé la nouvelle avec une photo d'elle qui est avec le modèle là, des candidats de la CAQ. Là. Je pense que tout le monde a compris que c'est ça que c'était.
Ouais.
Mais quand elle dit « Moi, je rentre en politique avec mes convictions intactes », ben là, c'est là que ça devient un petit peu ambigu. Fait que c'est sûr que je pense qu'elle se prépare en ce moment pour sa conférence de presse d'annonce où il va y avoir des questions. Et Dieu sait que les reporters de la colline parlementaire à Québec ne sont pas tendres. Donc, les questions vont lui être posées. Puis j'espère qu'elle a des bonnes réponses. Puis Mme Fréchette aussi, il y a des questions qui vont y être posées.
Ben oui.
On va dire, OK, ben vous dites que vous êtes un parti nationaliste. Vous dites que vous êtes fier de votre bilan sur la laïcité, sur la loi 21, que vous ne voulez pas revenir sur des dossiers comme le racisme systémique. Là, vous avez une candidate qui a dit exactement l'inverse. Qu'est-ce que vous avez à dire, tu sais? Puis s'il y a bien une chose, tu sais, la CAQ qui dit on est une coalition de fédéralistes, de souverainistes, de gens plus à gauche, de gens plus à droite. Mais s'il y avait une chose qui était le ciment, c'est le nationalisme. Fait que si tu veux commencer ta campagne avec un marteau-piqueur dans ce ciment-là, bonne chance pour la suite, encore une fois.
En effet, tu as entièrement raison. On parle avec Étienne Alexandre Beauregard, chroniqueur politique pour Boulevard 102.1. On fait toujours le résumé de la semaine en politique à 12h30 le vendredi dans l'émission On en jase. Parlant de résumé de la semaine, comment tu as trouvé la sortie de Paul Saint-Pierre-Plamondon par rapport à la souveraineté, au référendum et à Donald Trump? Moi, j'ai trouvé ça très habile parce que ça vient répondre à de l'insécurité grande chez la population. Ça vient vraiment mettre un calendrier à son échéance pour le référendum. Puis en même temps, ça vient comme éluder la question. Là, on ne pourra plus dire « Ah, c'est l'insécurité, on ne sait pas quand est-ce qu'il va le faire. Je vais le faire à la fin de mon mandat quand Trump sera plus là. »
Oui, c'est sûr que sur le coup, je pense qu'effectivement, ça va calmer les inquiétudes de certaines personnes parce que M. Plamondon, autant il ne fait pas de secret que lui est un indépendantiste, même la remontée du PQ, ça a beaucoup été en appuyant sur ce clou-là, en disant ouais. « Oui, nous, on est le parti des vraies convictions, on se cache pas, on dit qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir du Québec. » Ça l'a assez bien servi. Mais je pense qu'il se rend compte qu'il plafonne à un certain moment, notamment chez les électeurs plus âgés qui, eux, on le sait, là, depuis l'élection fédérale de l'an passé, sont très, très, très préoccupés par ce qui se passe aux États-Unis. Puis là, il se demande, en fait, comment est-ce que je vais aller chercher ma majorité? Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Là. Il est en territoire de gouvernement, il le sait, mais il ne veut pas se ramasser à gouverner 18 mois avec les mains liées. Fait que là, il se demande qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher les 2, 3, 4 points qui me manquent pour un peu péter le plafond et avoir ces 65 sièges-là qu'il y a besoin pour devenir majoritaire. Et là, ça, c'est un peu la tentative de le faire. Après, il y a beaucoup de gens qui ont aussi souligné que c'est un peu une non-annonce, dans la mesure où, après la parcelle de Chicoutimi, il avait déjà dit à peu près la même chose en disant bon, j'entends aux portes que les gens ne trouvent pas c'est le bon moment, on ne va pas être irresponsable non plus, etc. Et dans son livre bleu, il disait qu'il y avait justement des préparatifs pendant des années avant qu'on arrive au moment du référendum. Donc, peut-être que c'était un coup de com' qui était habile, mais qui n'a pas vraiment changé sa position, qui a eu le mérite au moins de le clarifier, parce qu'en faisant tout un ramdam autour de ça, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Mais la question, par exemple, c'est est-ce que c'est le début d'un vrai recul, par contre? Parce que s'il voit qu'il n'y a toujours pas les chiffres rendus en 2029... Est-ce qu'il va le faire par principe, même si c'est encore à 30 %?
Ouais.
Fait que c'est peut-être juste le début de quelque chose qui va gérer ensuite quand tu vas être au pouvoir. Ça va être à voir.
Hey, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'on l'a eu en entrevue justement mardi midi à l'émission On en jase. Bon, il a mentionné justement qu'il avait tenu à faire une déclaration par rapport à Trump et le référendum, parce qu'il dit « Bon, je l'ai dit dans une conférence de presse à Chicoutimi, mais je voulais être sûr que là, tout le monde comprenait mon alignement. » Mais en même temps, il a répété à plusieurs reprises dans l'entrevue « T'sais, on a des gros défis devant nous. La CAQ a scrappé le Québec. Faut s'attaquer aux infrastructures, faut s'attaquer à la santé. Justement, il veut abolir Santé Québec. Donc, plusieurs chantiers. Fait que ça se pourrait, honnêtement, qu'à la fin d'un premier mandat, il disait, hey, savez-vous quoi, on n'a pas amené les chantiers assez loin vu que la souveraineté est à 35 % puis qu'il remette pour son mandat suivant. Là.
Ben oui. Tu sais, c'est toujours ça un peu le dilemme du PQ. Puis d'ailleurs, ils sont pas les seuls. Quand tu lis sur les partis indépendantistes de gouvernement, par exemple en Écosse, etc., ils ont toujours le même dilemme. Est-ce que tu promets que tu vas être un bon gouvernement parce que t'es dans une élection pour former le gouvernement, ou est-ce que tu mises tout sur l'indépendance avec la part divisive que ça implique, parce que c'est pas toujours tout le monde qui est d'accord avec ça. Puis on pensait, en fait, le pari que M. Plamondon a fait, au moins pour devenir chef, c'est de dire, moi, je vais couper le nœud gordien, ça va être clair, cap sur l'indépendance. Mais là, oups, quand il se rapproche du pouvoir, bien, c'est toujours la même tension, parce que dans un contexte où la souveraineté n'est pas ultra-majoritaire au Québec, elle est même minoritaire, bien, tu vas toujours taper un certain plafond de verre. Puis cette je ne veux pas dire contradiction, mais cette tension-là, elle finit toujours par arriver. Et ben en fait, les chefs péquistes d'avant, ils avaient toujours trouvé des slogans pour dire ça. Hein? Monsieur Bouchard, c'était les conditions gagnantes. Monsieur Landry, c'était « je vais attendre d'avoir l'assurance morale de gagner ». Pauline Marois, c'était la gouvernance souverainiste. Monsieur Lisée, il a juste dit « je vais le mettre dans un deuxième mandat ». Puis là, bon, Monsieur Plamondon, il fait comme son affaire. « Ouais, mais là, c'est Trump ». L'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'ils pourront jamais se sortir de ça, parce que c'est un peu toujours l'épée de Damoclès qui est par-dessus la tête du PQ, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un désir immense dans la population d'avoir un référendum. Puis ça, c'est rarement arrivé, à part après l'accord du Lac-Mitch.
Non, en effet, tu as entièrement raison là-dessus. Le PQ qui veut abolir Santé Québec, moi, je vois ça très positivement. Puis je m'explique, on a donné les opérations à Santé Québec. Ils ont bien beau me dire, ça fait juste 2 ans que je suis là. Temps d'attente dans les urgences augmentées. La première ligne, c'est encore catastrophique. Les négociations avec les médecins n'ont rien donné pour arranger le tout. Tant qu'à mettre une structure pour une structure, moi, je me dis, prenons hôpital par hôpital, mettons un DG à la tête de cet hôpital-là, réduisons au maximum le nombre de personnes au ministère de la Santé pour qu'ils deviennent un conseil d'administration pour nos hôpitaux, puis à partir de là, d'après moi, les opérations vont aller mieux.
Ouais, bien ça, Santé Québec, effectivement, c'est, disons que... En tout cas, ils n'ont pas gagné la guerre de l'opinion publique. Pour
et Colin, non.
Puis, ben, c'est sûr que quand tu regardes les salaires dans l'organigramme, c'est à peu près la pire manière de bien faire passer ton message auprès des Québécois. Je veux dire, écoute, moi, des fois, j'ai le goût de donner le bénéfice du doute puis de dire, bon, peut-être effectivement, ça fait juste 2 ans, ça prend des résultats, etc. Mais moi, je dois dire que la philosophie derrière, j'ai toujours été un petit peu dubitatif. Parce que l'idée de dire, on va déléguer à quelque chose de crypto-indépendant, la gestion de ce qui est quand même plus que la moitié du budget de l'État québécois.
66 milliards.
Voilà. Ben, le principe même est vicié dans la mesure où, si tu dis « Ah, c'est plus le politique qui va être responsable de ça », ben c'est qui? Puis là, tu l'as vu dans l'article, là, Mme Biron, qui gère Santé Québec, répond à M. Plamondon en disant « Ouais, moi, je vais t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas nous abolir ». Mais l'affaire, c'est que dans ma conception du politique, qui est celle de beaucoup de gens, la structure étatique n'est pas supposée de répondre aux politiciens en disant « Non, tu ne feras pas ça ».
T'as raison.
À un moment donné, tu sais, Jeff, ni toi ni moi, on vote pour qui est le président de Santé Québec, puis pas toi non plus, Mathias. Ça, c'est déterminé par le gouvernement
mais
à un moment.
Mais pourtant, c'est le poste budgétaire le plus important du gouvernement.
Ben voilà. Parce qu'au final, moi, j'avoue qu'un des principes qui me tient à cœur en politique, c'est quand même l'imputabilité devant les citoyens. Puis plus tu éloignes quelque chose des élus, moins ça devient imputable. Puis tu sais, il y a des cas où c'est relativement positif. C'est par exemple que Hydro-Québec, on n'élise pas le président, regarde, ça me dérange pas, mais c'est pas très politisé non plus. Puis Hydro-Québec a quand même une réputation de bonne gestion, etc. T'sais, je veux dire, regardes les codes d'approbation des Québécois, c'est top, là. Cela dit, c'est quand même pas la moitié du budget et le soin de santé où on a justement, bon, beaucoup d'enjeux, puis personne n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a. Fait que clairement, il y a encore de la réforme à faire. Fait que l'idée de créer un peu une structure séparée qui peut répondre au gouvernement, qui peut décider certaines choses. Puis d'ailleurs, on a déjà vu les limites du modèle parce que quand ils ont décidé de commencer à rationaliser, à couper des services quelque part, bien là, ce qu'on pensait qu'il n'arriverait pas, c'est-à-dire que certains groupes se mettent à critiquer, que là, les oppositions le prennent puis mettent ça sur le dos du gouvernement. Finalement, le gouvernement, ils n'ont pas pu dire « Ah, ben là, c'est Santé Québec, parlez-nous-en pas ». Au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « On va passer le message à Santé Québec pour que ça se passe pas comme ça. »
Fait
que là, la séparation entre les deux, est-tu encore là?
Elle est pas là, pas
non, tu
sais. Non, c'est ça.
Parce que c'est impossible. C'est impossible.
Ben,
c'est un système de santé qui est public puis qui est géré par le public, de dire qu'il va avoir une séparation avec le politique, parce que sinon, qui gère ça?
Ah, exactement. Je suis clairement d'accord avec toi. On termine avec la plateforme du PCQ que j'ai trouvé très intéressante. 38 pages, c'est expliqué très clairement, facilement. J'aime beaucoup qu'on veut donner des responsabilités additionnelles aux municipalités. Bien, leur redonner les responsabilités qui leur reviennent. Autrement dit, arrêter d'être toujours celui qui décide pour l'autre. Parce que, bon, petite parenthèse, ça, moi, je ris tout le temps, là. Au Québec, on se plaint que le fédéral décide pour nous autres, mais on décide pour les municipalités. Fait que, y a un petit paradoxe, là. J'aime beaucoup aussi qu'on fasse la place au privé en santé. Donc, dis-moi donc, est-ce que ça a été une bonne semaine pour le PCQ, pour le fameux électeur nationaliste de droite auquel on chicane le PQ et eux pour aller le chercher?
Honnêtement, moi, je pense que le Parti conservateur du Québec, c'est celui qui a eu la meilleure pré-campagne jusqu'à maintenant.
Vraiment.
Bon, d'ailleurs, tout le monde va s'entendre pour dire que Charles Milliard, c'est celui qui a eu la pire, mais ça, c'est une autre question. D'ailleurs, il y a un autre candidat qui est parti pas plus tard qu'hier. Mais en fait, le PCQ, le pari qu'ils ont fait, c'est de dire on va commencer à sortir des cartouches avant le début de l'élection.
Ouais.
Ils ont fait leur sortie sur qu'est-ce qu'ils couperaient dans le gouvernement. Je pense, pour pas se faire dire après, ouais, mais qu'est-ce que vous allez couper si vous voulez couper? Là, ensuite, arrive avec leur plateforme, avec quatre axes là, que M. Duhaime parlait. Dit d'abord la question de couper dans l'État, dynamiser l'économie, redonner de l'argent dans le portefeuille des gens. Ensuite, justement, mettre plus de privés en santé. Après ça, la famille, le logement, recommencer à bâtir. Et finalement, la question de l'autonomie, comme tu disais, l'autonomie des régions et l'autonomie du Québec. Puis je pense que une des raisons pour lesquelles ils ont réussi cette pré-campagne-là, c'est parce que, à tort ou à raison, une des critiques que les gens formulaient beaucoup au PCQ, notamment parce qu'ils se rappellent de toute l'époque de la pandémie, ils disaient ben, c'est un parti chialeux, entre guillemets, un parti qui sont contre
c'est
beaucoup
vrai.
De choses, mais on ne sait pas ils sont pour quoi. Puis je pense que M. Duhaime, en sortant cette plateforme-là, a au moins le mérite de dire ben, regarde, voici les problèmes qu'on diagnostique, on trouve que le modèle québécois est devenu trop bureaucratique, trop dépensier, etc. Voici les quatre axes principaux sur lesquels on veut agir pour les Québécois. Puis, on ne peut pas dire maintenant, quand on voit ça, qu'il n'y a pas de solution, qu'il fait juste chialer. C'est pas vrai. Il dit, voici mes quatre priorités. Après, on peut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dedans. Par exemple, l'éducation. L'éducation ne fait pas partie de leurs quatre priorités. Si
c'est
pour
vrai.
Vous, vous pensez qu'il faut des réformes là-dedans, bien, vous allez peut-être dire, OK, ben, hé, où? Peut-être que M. Duhaime va faire une sortie là-dessus à un moment donné, mais ce n'est pas dedans. Mais on ne peut pas dire qu'il propose rien. Puis je pense que pour les électeurs de droite, en tout cas sur la question économique, c'est quelque chose de satisfaisant. Puis surtout, c'est pas quelque chose de radical. T'sais, moi, par exemple, le plan de Cooper, on en a parlé la semaine passée, mais de dire qu'on va couper 2,6% du budget de l'État sur 5 ans, si on exclut les subventions aux entreprises, là, ça monte à 5%.
Bon,
en tout
oui.
cas, j'espère que c'est pas trop radical, parce que si on n'est pas capable de couper de, 10 pour, de 2%, oublie ça, c'est terminé. Là, on va jamais récupérer le contrôle de nos dépenses. Mais tout ça pour dire, moi, je pense qu'il y a des propositions intéressantes qui sont faites. Après, sur la question identitaire, qui est l'autre gros morceau pour ces électeurs-là, moi, je pense que le PQ a encore l'avantage, là, parce qu'eux, ils ont une crédibilité qui est prouvée, on s'entend, le Parti québécois, c'est le parti par défaut un peu des nationalistes. Puis M. Duhaime, il a été assez silencieux sur cette question-là. T'sais, bon, là, il nous a parlé d'autonomie, des pouvoirs pour le Québec. C'est intéressant, il a sorti un livre sur cette question-là. Est-ce qu'il va sortir aussi sur la question de l'immigration, sur la question du français, sur la question des valeurs québécoises? C'est pas des choses qu'on identifie pour le moment au PCQ. Ça pourrait le devenir s'il arrive avec des propositions pour ça, mais pour le moment, je pense que ça reste encore à prouver. Cela dit, clairement, les deux, comme tu dis, autant le PQ que le PCQ, ils comprennent qu'ils s'adressent un peu à la même personne. Le travailleur qui est à la fois nationaliste, à la fois centre-droit, trouve qu'il n'en a pas assez pour son argent. Fait que c'est sûr, je pense que la lutte va être féroce.
Exactement. J'ai hâte de voir en tant que tel le plan, justement, économique, mais surtout des finances publiques du PQ, parce que je pense que ça va jouer beaucoup là. J'imagine que le PQ va trouver un genre d'entre-deux pour dire, regardez, nous, c'est réaliste ce qu'on propose, c'est pas réaliste 47 milliards. Je ferai un petit pari là-dessus, moi.
23,5. Ils vont-tu couper à part en deux, tu penses?
OK, pourquoi pas, comme dans toute bonne négociation. Étienne Alexandre, toujours un bonheur de te parler. On se reparle vendredi prochain.
Ben oui, salut à vous deux,
yes, bye. Salut Étienne Alexandre, bon regard, chroniqueur politique pour nous à Boulevard 102.1. Il a été rédacteur des discours pour François Legault et les chercheurs à l'Institut Cardus. Circulation, Mathias?
Ouais, pas le choix de faire un tour rapide parce que présentement, Henri IV, direction sud, il y a un accident. Autour de la bretelle pour l'autoroute du Plessis qui est présentement bloquée, les services d'urgence qui sont actuellement sur place. Puis le ralentissement pour prendre le pont Pierre-Laporte en direction sud, c'est déjà très bien installé. Là, sur Henri IV, ça remonte jusqu'à Wilfrid Hamel. Sur Duplessis, c'est passé jusqu'à Versant Nord que ça remonte. Donc, très, très difficile d'accès au pont pour le moment. Capitale, direction est, aussi un ralentissement entre Pierre-Bertrand et boulevard Masson, c'est au rouge. Direction ouest, le ralentissement qui commence à Robert-Bourassa et qui remonte jusqu'à Henri-Bourassa pour le moment. Laurentienne-Sud, quand même pas mal d'attente pour accéder à Capitale. Je vous transporte maintenant sur la rive sud, sans étonnement, ralentissement 20 ouest entre Taniata et Président Kennedy, et 20 est entre Taniata et Avenue des Églises. Si vous voyez quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Excellent texto de notre ami Christian qui dit « Santé Québec, je le vis au quotidien, ne font que couper. C'est la seule constatation jusqu'à maintenant. » Je trouve ça intéressant comme commentaire. Sais-tu pourquoi? Parce que je me demande si Santé Québec n'a pas servi pour la CAQ à camoufler l'odieux de coupure en santé. Hein? Pas nous autres qui prenons la décision, Santé
Québec. C'est Santé Québec.
De donner la responsabilité Exactement. Sur Santé Québec au lieu de la prendre.
En plein ça, et c'est des coupures, rappelons-le, qui se font directement sur le terrain. Là, t'es plusieurs choses qu'on sait. Il y a moins en moins d'agents de sécurité. Ça donne des situations comme à l'urgence psychiatrique où une infirmière s'est fait casser le nez. Il y a de moins en moins de personnel d'entretien, ce qui fait que la fin de semaine, on est moins capable de transférer des patients qui sont sur une civière à l'urgence dans une chambre, parce que ça va aller au lundi qu'on va désinfecter cette chambre-là qui avait été utilisée. Donc, c'est des coupures drastiques directement sur le terrain au lieu de couper dans l'organigramme. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté une grosse strate d'organigramme qui coûte cher, avec des salaires élevés, comme Étienne Alexandre nous l'a dit. Puis on a dit à cette grosse structure-là, « Hey, moi, j'ai pas le courage de faire des coupures, toi, fais-les. »
Fais-le. Ouais, mais en même temps, si c'est ça la stratégie, je sais pas à quel point c'était la bonne à adopter. Parce que je trouve que ça nous donne un exemple assez facile de l'échec de la CAQ en santé.
Ouais.
La CAQ en santé, ça s'est passé Québec. Comment? Faites juste regarder Santé Québec. C'est ça le discours de beaucoup de personnes. Là.
En effet.
Fait que si c'était ça de Paris qui ont vraiment appris...
Ils l'ont raté.
Moi, je pense pas que ça payait bien, bien.
Exactement. Avant de passer à la pause, je vous invite à Saint-Roch XP du 27 au 29 août. On transforme le quartier Saint-Roch à une scène dédiée à la musique émergente. C'est des spectacles gratuits dans des lieux inusités, des artistes de la relève, des DJ, des bouchers à petit prix, une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs. Découvrez la programmation et planifiez votre week-end au saintrochxp.com. C'est une invitation de BLVD 102.1. On parle énormément de ce qui se passe entre le Canada et les États-Unis. Et avec raison, parce qu'on est dans des derniers balbutiements de négociations pour savoir quels tarifs nous aurons et qu'est-ce qu'on aura cédé en retour. On en parle avec notre chroniqueuse économique, Lani Dufour, au retour de la pause à l'émission d'Enjase.
L'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
13h07, Boulevard 102.1, l'émission On en jase. À compter de 14h, c'est Denis Gravel avec Véro et Audrey pour le retour de Gravel. 18h, on est vendredi, le garage à Dan. Le jukebox à Dan, les meilleurs classiques rock, manquez pas ça. Demain matin, 7h à 10h, et dimanche, Audrey Pinchot dans le Rock and Chill. Quelle belle émission pour se réveiller la fin de semaine. De 10h à 15h, bing, on met une coupe de bûche dans le foyer. C'est le boulevard du rock avec Dan Caron samedi, Colosse dimanche. Puis là, de 15h à 17h, le feu bien pogné avec l'émission la plus edgy de toutes les stations de radio à Québec, musicalement. Les Colosses du rock, du Rage Against the Machine, du System of a Down. En veux-tu, en v'là, on te garoche ça par la tête. À la météo, c'est 22 degrés à l'heure actuelle. Il va faire 24 au maximum aujourd'hui. C'est ensoleillé. Ensoleillé demain, 24 degrés également. La pluie qui va s'installer dans la nuit de samedi à dimanche. Et on est à 60% de possibilité d'averse pour dimanche avec 20 degrés. Mathias, quelques manchettes avant qu'on parle de négociations Canada-États-Unis avec notre chroniqueuse économique, Lani Dufour.
Ben, on n'a pas le choix de revenir sur Olivier Primeau. On a finalement la confirmation de pourquoi il était un peu dans une grotte ou dans une cachette.
Oui,
puis on n'avait pas beaucoup d'informations sur ce qui s'en venait. Finalement, Olivier Primeau qui ne sera pas candidat pour la coalition Avenir Québec. Toutefois, la CAQ qui va payer Olivier Primeau, l'influenceur et entrepreneur, pour faire le tour du Québec dans la Primeau mobile dans le but de promouvoir les idées de la coalition Avenir Québec au vu des prochaines élections. C'est donc dans une caravane de la CAQ qu'il va se promener un peu partout à travers la province. De ce qu'on comprend, c'est que la coalition Avenir Québec va payer l'influenceur Olivier Primeau puis que ça va faire partie des dépenses de la campagne pour la CAQ. Les caméras corporelles pour les policiers, on a fait l'annonce aujourd'hui du côté de Montréal, comme quoi on voulait mettre des caméras corporelle pour plusieurs milliers de policiers ainsi que plusieurs centaines de véhicules de patrouille aussi. L'objectif sera d'ensuite, une fois que ces caméras-là seront installées, de mettre en place un règlement interdisant d'insulter des policiers. Du côté de Québec, on a répondu en disant que nous, on n'a pas prévu mettre en place ce même stratagème qu'à la ville de Montréal, comme quoi on va attendre une vraie stratégie gouvernementale du provincial pour mettre en place des caméras corporelles. On ne va pas prendre l'initiative par nous-mêmes comme on le fait du côté de Montréal. Et je termine avec le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, qui a fait une annonce économique aujourd'hui du côté de Lévis. On a fait 4 engagements auprès des PME et des entreprises. Tout d'abord, on veut mettre fin au principe du plus bas soumissionnaire. On veut se garder une marge préférentielle de 15 % pour l'octroi de contrats, surtout pour prioriser des entreprises d'ici. On s'engage à payer des entreprises avec qui l'État fait affaire dans un délai d'au plus de 20 jours. Et le gouvernement Milliard qui veut donner la chance aux PME du Québec de soumissionner pour des idées innovantes, même s'ils n'ont pas nécessairement fait leurs preuves ailleurs.
Lanie Dufour, chroniqueuse politique et économique pour nous et directrice principale des relations gouvernementales chez Catapulte Communication, est avec nous. Lanie, comment vas-tu?
Ça va bien, vous?
Ça va super bien. Lanie, des négociations entre le Canada et les États-Unis qui sont très hermétiques, très fermées. Ça plaît pas aux provinces, ça.
Fermé, mais juste d'un côté. C'est
ouais,
ça, la...
c'est ça l'affaire. C'est vrai, parce que Donald, lui, fait des trucs.
Ben, puis c'est son entourage aussi.
Il s'est posé avec Keystone, le pipeline.
Ouais, un beau
c'est
montage
fait une
d'hier.
Caricature. Puis c'est vrai que du côté de Jamieson Greer, du côté de G.D. Vance, on a la parole facile.
On a la parole facile. Après, ils disent que ce qu'ils veulent bien dévoiler. Donc, on n'a pas la teneur des discussions. Mais du côté canadien, je vous dirais même qu'il y avait des sorties publiques avec des médias prévus avec certains élus fédéraux et ça a été annulé dans le contexte des tarifs parce que ben on veut pas justement avoir un micro sous le nez puis que là, on se fasse questionner là-dessus, chose qui est inévitable si tu as un micro sous le nez puis que tu es un élu fédéraux
c'est
en ce
clair.
Moment. Et je dirais même que ça s'étire à l'échelle des provinces. On cherche Doug Ford, Mme Fréchette est en réflexion, elle fait pas nécessairement d'entrevue non plus, donc on est vraiment en train d'analyser ce qu'on dit. C'est que justement, par rapport au, à la réinsertion de l'alcool américain sur les tablettes, notamment pour nous de la SAQ, ben c'est dans la cour des provinces. Est-ce qu'on va accepter de le faire ou pas? Ce que la communauté économique demande, c'est de le faire si c'est pour nous permettre d'avoir un meilleur... deal.
Ouais.
Mais est-ce que c'est ça qui va se passer? Là, en ce moment, ce qui coule, c'est que, ben, on réduirait peut-être le pourcentage, mais il y aurait quand même des tarifs.
Exactement. Puis, tu sais, pour meilleur deal, puis là, je vais reprendre les paroles d'Yannick Marceau qui anime le matin. Là. On était à 25 %. Trump a dit, je vais vous mettre à 50, mais pas fin. Mais là, peut-être que notre deal, ça va être de revenir à 25, alors qu'à 25, on mettait des mesures contre les Américains. Fait que, voilà. On a-tu vraiment un meilleur deal?
C'est là où la question se pose. Puis, par contre, c'est que le 50 % dont on parle, c'est pas sur les mêmes produits. Fait que, tu sais, ça devient mêlant puis c'est dur à suivre. Mais on a l'aluminium, c'est on a vrai. L'acier. Mais il faut comprendre que le 50 % ben, c'était plus sur le bois transformé. Donc, on peut penser à tout ce qui est des armoires. On parlait des bâtons de hockey, on parlait du miel, on parlait de produits comme ça, le plastique aussi, le béton. Chose qui n'était pas nécessairement touchée avant ces tarifs-là, si ça s'applique demain parce qu'on a donné un sursis de 3 jours du côté de Trump. Puis, tu vois, on dirait qu'il nous donne un sursis de 3 jours puis on a envie de dire merci. Pas vraiment. Là.
Ouais, mais c'est ça l'affaire.
C'est comme, OK, mais encore. Fait que là, aujourd'hui, c'est là qu'on va avoir un peu plus de nouvelles. On sait que Dominique Leblanc est encore à Washington. Et il a dit qu'il partirait pas tant qu'il ne pouvait pas nous donner plus de détails sur l'entente. Il y avait une rencontre ce matin de ce que j'ai lu, mais comme tu dis, c'est assez hermétique sur qu'est-ce qui coule. J'ai regardé, tu sais, justement, petite revue d'actualité, puis c'est toute de l'information qui date de là, 2 jours, là, tu sais, ou à la limite ce matin. Là, on a Pierre Poilievre qui est sorti aussi aujourd'hui parce qu'il a été attaqué un peu par J.D. Vance, mais quand même, on n'a pas vraiment d'informations sur qu'est-ce qui va arriver à partir de minuit ce soir. Là.
Mark Carney joue-t-il gros dans ces négociations-là? T'es dans le sens que présentement, il est sur un aura au Québec. Il a dit « Je suis l'homme de la situation pour négocier avec Trump ». Mais là, dans les nouvelles qu'on a ou qu'on goûte, on se rend compte que l'influence Carney n'est pas si forte que ça.
C'est pas tant l'influence Carney pour moi, mais c'est vraiment que je me pose la question, est-ce qu'on aurait mieux avec d'autres personnes? Parce que c'est ça l'ultime question.
Ben moi, t'es la question. La réponse que je peux te donner, c'est que je pense pas qu'on aurait mieux avec Pierre Poilievre.
Ben, c'est un peu ça. Donc, est-ce que... Et puis, il n'y a pas vraiment d'autres oppositions. Tu sais, François Blanchet a beau écrire une lettre au premier ministre, c'est pas nécessairement lui qui peut accéder à ce poste-là.
Il accède jamais au pouvoir. Voilà. Puis là, c'est pas Alvy Lewis du NPD en qui j'aurais confiance non plus.
Non, puis peu importe le pays, on est tous un peu dans la même situation où quand même qu'il donne sa parole puis qu'on va de l'avant, il peut décider de faire volte-face sans nécessairement consulter personne. Donc, une fois qu'on a dit ça, bon, ben, il est imprévisible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rester dans ce qu'on contrôle. Là, on a parlé de diversification, on a parlé souvent d'aller chercher d'autres marchés, de même améliorer notre marché canadien pour qu'on soit
ça,
plus compétitif.
Ça, il le fait bien, Mark Carney.
Ça se fait. Ça se fait. Après, c'est que c'est long. Donc là, on demande aussi, du côté des entreprises, d'avoir quelque chose de plus rapide, donc baisse d'impôts, pour avoir un peu de souffle, parce que quand on parle de 50 %, c'est quand même majeur. Puis oui, on peut dire « je vais refiler la facture », mais c'est parce que c'est un peu l'œuf ou la poule. Parce que oui, tu peux refiler une partie des tarifs à tes clients, mais à un moment donné, si tu es plus compétitif avec le coût, ben tu perds tes clients. Fait que là, ben t'as plus d'entrée d'argent.
C'est
clair.
Faut
que t'en absorbes quand même une partie. Là.
T'as pas le choix, t'as entièrement raison. Pour rappel, on parle avec Lanny Dufour, chroniqueuse politique et économique chez nous et directrice principale des relations gouvernementales chez Catapulte Communication. Est-ce que ça va jouer sur la partielle dans Chicoutimi, ce qui se passe?
J'ai pas l'impression que ça va jouer sur la partielle parce que même si les tarifs affectent grandement, c'est vraiment les candidats, à mon avis, qui vont avoir une incidence plus grande. On a Daniel Gobeil du côté du Parti libéral, on a Régis Gaudreau, puis Caroline Dubé. Là, c'est pas mal notre top 3. Là,
ouais.
J'ai pas besoin de, je ferai pas nécessairement l'énumération de tout le monde, mais oui, ça fait partie de... Mais on dirait que nos entreprises sont tellement rendues résilientes, puis il y a tellement, on va le dire comme ça, là, une écœurantite d'aller voter chez nous, puis on le voit, ça va faire 5 fois là, qu'on y va, que malgré les tarifs, je suis pas sûre que c'est la personne qui va aller voter va voter à cause de des négociations avec les Américains. Puis ça, c'est vraiment... De ma perception, moi, j'ai pas vraiment de
ta perception sur le terrain, c'est parfait.
Oui, c'est ça, parce que je suis là-bas. J'ai pas l'impression que ça va jouer sur la décision. Ça va être plus sur des trucs un peu plus locaux, comment le candidat se positionne, parce que là, on a beaucoup de visites. Là. T'sais, on a les chefs qui sont venus, on a des ministres qui sont sur le terrain, d'autres députés qui viennent faire des tours pour aider justement à aller cogner aux portes. Mais est-ce que vraiment Mark Carney va perdre des plumes avec ça dans sa partielle? Je pense pas. Là, on va préparer aussi celle du côté de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Et encore une fois, là, ça va peut-être être différent parce que l'historique de la circonscription est différent aussi. Mais j'ai pas l'impression qu'on va venir jouer dans cette talle-là parce que il y a des rencontres qui se font. Puis je pense que tout le monde est un peu réaliste au sens où on le sait qu'on a affaire à qui, là. T'sais, même Paul Saint-Pierre Plamondon a reculé de quelques mois là, le référendum, juste parce que tant qu'on a Trump de l'autre côté, on met tout un peu un genou à terre en disant on va attendre qu'il parte, si on réussit à s'en débarrasser, pour faire nos affaires, là, littéralement avancer les projets qu'on a et tout. Fait que je pense que c'est un peu la même chose. Puis l'autre affaire que je voulais vous dire, par contre, qui était un très bon coup pour Carney, c'est Terre-Neuve.
Ben oui!
Ça, tu sais, ça fait quelques jours, là, mais
non,
ça...
Non, non, on peut revenir.
C'est toute cette semaine, là, mais ça, c'était... Tu sais, il arrive un peu... Justement, moi, j'ai deux provinces qui s'entendent pas, tout ça. Je vais arriver, je vais mettre de l'argent, puis tout ça, puis on va s'entendre. Puis justement, ça l'a permis, en mettant de l'argent, puis en augmentant justement la capacité de production, de s'entendre. C'est pas encore finalisé. Mais ça, le ton a changé là, dans les négociations. Donc, clairement, il est arrivé, puis ça l'a permis cet aspect-là d'unité canadienne un peu plus
fort. Des grands projets.
Fait que moi, pour lui, cette semaine, même si c'est pas facile du côté des négos, je pense qu'il a quand même marqué un bon coup.
Oui, d'embarquer le Québec aussi dans ces grands projets-là. Moi, je suis pas comme les Mathieu Boc-Côté de ce monde, puis je crie pas au scandale d'Hydro-Canada. Je pense juste que pour Hydro-Québec, on avait besoin de ce projet-là. C'est la pièce maîtresse.
Ah, on en a besoin, là, parce qu'on s'en est déjà parlé. L'ensemble des projets au Québec qui sont dans les cartons, s'il n'y a pas les mégawatts, ça beau être le plus gros projet du monde, il ne se fera pas.
Exactement. Donc, c'était parfait. Hey, je termine là-dessus, par contre. Est-ce que tout ça est une épine dans le pied pour Christine Fréchette, c'est-à-dire Churchill Falls, où elle s'est quand même présentée devant un panneau « Bâtir un Canada fort oui. » pour un parti qui est résolument nationaliste? Ça a chatouillé certaines personnes, et je le comprends. Et là, ses réponses en anglais... Puis là, les négociations où on sait que le Québec va en perdre anyway, c'est ça une négociation. Tu vas en gagner une place, tu vas en perdre une place. Là, es-tu pris dans une espèce de piège d'être capitaine Canada cette semaine?
Un peu, mais ça déplaît pas à tout le monde. T'sais, parce que je pense que si tu réussis justement à t'entendre du niveau de Terre-Neuve, puis ça, c'est avantageux pour la province, pour le Québec, de venir justement accepter ce petit recul-là où ben, le Canada vient nous permettre de s'entendre. Puis elle a toujours nommé, puis elle veut pas être dans l'autobus du non, mais elle veut pas non plus être dans le camp du oui. Donc elle le dit, je suis pour le Québec. Puis tu sais, ça fait un petit bout qu'elle l'a pas répété, mais même, le seul enjeu qu'on a, pour moi, c'est cet aspect-là où ça donne quand même du jus au Parti québécois de venir dire, ben dans le fond, ils ont besoin du Canada. Puis si tu as tant besoin, puis tu sais, je l'ai lu, là, c'est pas nécessairement moi qui dis ça, mais si elle a tant besoin de Carney pour avancer ses projets, c'est qu'elle a peut-être pas de proposition. Mais de l'autre côté, ça lui a permis quand même d'aller chercher des candidats que j'aurais pas pensé. Mm-hmm. Geneviève Peterson, j'aurais jamais pensé qu'elle s'en allait avec
la CAQ. Non, pas avec ses prises d'opposition passées.
Voilà, donc c'est quand même, je dirais, des candidatures qu'on disait, ça va être plus difficile le recrutement. Simon-Jolin Barrette qui confirme, on peut dire, ce qu'il confirme et ce qu'il confirme pas, on se doutait qu'il restait là, de toute façon, mais c'est quand même aussi un côté plus nationaliste. Donc, si lui accepte ça, ben ça peut aussi permettre à la base militante un petit peu plus souverainiste de rester là, attachée.
La ligne du four, c'est toujours un bonheur de te parler. On se reparle la semaine prochaine.
Ça
va continuer à bouger en économie, je suis convaincu. Yes. Après la pause, vous vous demandez ce qui se passe, ce qui s'est passé sur le pompier à la porte vendredi passé. Cette fusillade, cette chasse à l'homme, des gens qui couraient partout, c'est quoi exactement qui s'est produit à ce moment-là? Ben, Victoria Barry, journaliste pour Le Soleil, a rencontré ce bon Samaritain qui malheureusement s'est fait tirer à bout portant par l'individu en question. Donc, elle va nous parler de ceci, de son récit, puis on va pouvoir en savoir plus sur cet événement-là. Mais avant, Mathieu, je pense qu'il y a de la circulation par là du pont. Hein?
Oui, juste avant de faire la circulation, je veux revenir sur une nouvelle qui est sortie au cours des dernières minutes. Un adolescent qui a été arrêté du côté de Montréal par la GRC pour avoir planifié un attentat dans une école secondaire du côté de Montréal. Tout a eu lieu ce matin dans le quartier Rosemont à Montréal. Le jeune qu'on connaît pas l'âge pour l'instant, là, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est mineur, aurait utilisé l'intelligence artificielle pour planifier son attaque sur l'école secondaire. Le FBI qui a donc transmis des informations à la GRC. La GRC qui a procédé à l'intervention ce matin, lourdement armée, parce qu'on savait pas si l'homme était armé ou non au moment de l'intervention. On nous dit aussi que c'est pas juste l'attentat prévu dans l'école secondaire qui lui est reproché. Durant les dernières semaines, il aurait tenu des propos menaçants sur l'application Telegram ciblant des musulmans, des haïtiens, la communauté LGBTQ. Donc, on devrait avoir un peu plus de détails au cours des prochaines heures, des prochains jours. Remarque, des fois, quand c'est mineur, c'est des personnes mineures, on n'a pas nécessairement tous les détails. Mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est que l'adolescent va comparaître cet après-midi en chambre de la jeunesse.
Il y a vraiment une hausse, malheureusement, des crimes commis par les jeunes ou planifiés par les jeunes au Québec. C'est très questionnant. Circulation?
Oui, l'accès au pont Pierre-Laporte, direction sud, très difficile. Là, présentement, sur Henri IV, ça remonte jusqu'à Versant Nord. C'est complètement bouché. Sur Duplessis, c'est jusqu'à la 40, donc... C'est un ralentissement d'heure de pointe, là, vraiment. Capitale direction est entre Pierre-Bertrand et boulevard Masson, c'est au rouge. En direction ouest, c'est entre Laurentienne et Henri Bourassa. Laurentienne direction sud pour accéder à Capitale, quand même pas mal d'attente dans ce secteur. Et sur la rive sud, comme à l'habitude, la 20 direction ouest, c'est bouché entre Taniata et Président Kennedy. Quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à nous texter 418-971-1021.
Victoria Barry du journal Le Soleil est avec nous après la pause. On va voir via les yeux de ce bon Samaritain qui s'est fait tirer à bout portant ce qui s'est passé réellement sur le pont Pierre-Laporte vendredi dernier. Émission d'En jase, il est présentement 13h29 minutes. Le retour de Gravel va suivre à 14h avec Denis Audrey et Véro. Et le garage à Dan à compter de 18h. Hey, petite question pour vous, on parlait de ça hors d'onde. Moi, Mathias et Victoria du journal Le Soleil. Mettez-vous des règles, vous autres, le vendredi soir. Nous autres, le vendredi soir à la maison, là, c'est des restants dans le fridge. On compte pas le temps d'écran. Il y a comme pas de règles. Tu décides de te déboucher une bière, tu t'en débouches.
Hey, c'est vendredi, hein?
C'est ça, c'est le moment là, où la Terre arrête de tourner et on est en mode relax.
Mais ça-tu. Je te pose la question, là, toi qui as deux enfants.
Oui.
Ça-tu toujours été de même avec tes enfants ou c'est maintenant qu'ils sont plus vieux?
Ah oh non, ça a toujours été de même.
Fait que le vendredi.
Ah oh, ouais, les vendredis.
On mange
là,
des cochonneries.
Exactement. Ah oh oui, les vendredis, c'est sort le sac de chips si tu
le
veux en arrivant de l'école. Ah oh oui.
Oh oui. Le sac de chips en revenant de l'école,
on
ouais,
s'en balance. Okay. Non, le vendredi, c'est comme on s'en balance. Fais ce
j'aime
que
ça.
Tu veux.
J'aime
ouais.
ça.
On reprendra ça le samedi, mais c'est ça. Là, évidemment, des fois, il y a des loisirs le vendredi. Là. Moi, mes gars, je joue au hockey pour au foot. Fait que des fois, on est au foot ou au hockey.
Ah, c'est vrai. C'est le vendredi soir, des fois. Hein?
Oui, ben, mais...
Surtout le foot, je pense.
Ah, hein? Edou va jouer. Il y a ses matchs. Il y a 6 matchs. Je pense qu'il y en a 4 le vendredi soir.
Et moi.
Ouais. Ouais, mais c'est cool ça. Aussi, par exemple. Ça.
Ouais, non, c'est vrai. Mais sinon, c'est vrai.
Moi, j'aime ça, là.
T'en vas t'asseoir, relax,
ben,
écouter
ouais,
ton gars jouer.
Au terrain, je connais plein de parents, on s'amène des petites bières en cachette.
Ah, ben oui. Ah, ça fait quand même une belle soirée.
Ben oui.
J'ai pas le choix de te donner
on
raison.
On mange des hot dogs de la petite cantine pour financer l'école. Non, c'est vraiment, vraiment
fait
cool.
Fait que là, il n'y a pas de règles. Fait qu'en plus, tu peux prendre ta bière puis ta poutine, il n'y a pas de problème.
C'est ça. Ce que je trouve plus difficile, des fois, les vendredis, c'est que moi, je coach au hockey. Fait que là, je suis coach au hockey, exemple, ouais. à 9h le soir. C'est clair, je prends pas de bière avant d'aller coach au hockey. Là. Peut-être que t'as donné ton nom pour être entraîneur. Faut
t'as une responsabilité.
C'est ça, faut que tu sois responsable. Fait que là, pas de petite bière en mangeant le restant le vendredi. Là, tu fais comme attendre qu'arrive 9h pour coacher. Ça, je le trouve plus tough.
Ah ouais. Je te comprends.
Tough. Mais sinon, puis mon moment préféré pour aller au Rempart, c'est le vendredi soir aussi. La bière que tu débouches au Centre Vidéotron le vendredi soir... satisfaisant de la fin de la semaine en regardant une bonne game de hockey.
À vaut le 20$?
Ah! Oui. Sans l'ombre d'un doute. Bon, il y en a même souvent deux. On est avec Victoria Barry. On revient justement sur l'événement du soleil. Mais avant ça, c'est vrai, je l'oubliais, Mathias. C'est le... Voyons, comment ça s'appelle dans le média? Urbania. Qui a embauché François Gariépy, qui a tenu à publier un X pour défendre son ancien journaliste chroniqueur.
Ouais, je viens de tomber là-dessus. Là. France-Hélène Duranceau qui a fait une grosse publication tantôt, qui s'est dit outrée des propos que François Gariépy a tenus par le passé, présentement candidat pour le PQ. Puis, dans son tweet, en gros, il y avait certains articles que François Gariépy a publiés par le passé dans Urbania, début des années 2010-2011. Je vais vous lire les titres, là, puis là, je tiens à préciser, je cite les titres. « L'art de crosser un pénis à huile » ou encore « Ma grand-mère suce des grosses queues sur Internet ». Ça, c'est des titres que François Gariépy avait choisis à l'époque. Et là, il y a plusieurs personnes qui s'offusquaient de ça et tout.
Ouais.
Et Urbania a fait un tweet justement pour réagir à ça. Dans leur tweet, on précise qu'on a relu les deux articles en question de 2010 et de 2011. Puis qu'on s'est rendu compte qu'il s'agissait de journalistes anthropologiques à la Urbania. Fait qu'on n'a pas vu de problème. On a ciblé de l'observation de l'humour, une certaine irrévérence et une assez belle plume des dires d'Urbania. Fait que le média dit... On va pas renier ce que notre média était il y a 16 ans. Les propos que François Gariépy a tenus, il n'y a aucun problème là-dedans. Puis ils ont fini en disant « Avant de s'outrer d'un titre, ça vaut parfois la peine de lire ce qu'il y a en dessous. »
Ouais, c'était le style de ce média-là. On va aller rejoindre un média d'information un petit peu plus crédible qui s'appelle Le Soleil avec Victoria Barry. Comment ça va, Victoria?
Ça va!
Pas pire, le lien, hein, quand même!
Écoute...
Le cerveau fonctionne encore.
Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est toi.
Victoria, t'as rencontré le survivant qui s'est fait tirer à bout portant sur le pont Pierre-Laporte, ce bon Samaritain, vendredi dernier. Mais avant de parler de son histoire, il faut absolument que je te pose la question. T'es-tu déjà tombé sur un dossier où l'information est aussi hermétique?
Écoute, Oui, mais un dossier aussi important et visible, non.
Non, hein?
Parce que l'affaire, c'est que là, c'est une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes qui est en cours. Et puis ça, c'est déclenché à chaque fois qu'il y a un décès lors d'une intervention policière ou un blessé grave. Habituellement, c'est des événements qui sont un peu moins visibles. Tu sais, ça peut être un individu barricadé qui finit par se tirer. Ça peut être, je sais pas, un accident, puis le char de police accroche quelqu'un. Bref, c'est souvent des plus petits faits divers. Là, la particularité, c'est que c'était énorme. Il y a des centaines d'automobilistes qui sont restés pris. Il y a deux victimes qui ont été blessées gravement là-dedans. Fait que ça fait en sorte que les gens veulent encore plus d'informations, mais... À cause de l'enquête du BEI, tous les corps policiers qui sont impliqués ne peuvent plus rien dire. Donc là, on parle de Sûreté du Québec, Service de police de la Ville de Québec, Service de police de la Ville de Lévis. On ne peut plus rien dire dès que le BEI est impliqué. Et puis là, c'est le Service de police de Montréal qui a été mandaté pour enquêter sur les événements parce que c'est les trois autres corps de police ne peuvent pas enquêter sur eux-mêmes. Donc là, on va chercher le SPVM. Fait qu'il y a genre six institutions qui sont impliquées dans ces enquêtes-là. Donc, extrêmement compliqué à couvrir journalistiquement et à communiquer avec les
gens. Le BEI, quand est-ce qu'ils vont délivrer leur enquête? C'est quoi? Ça peut prendre jusqu'à 12, 18 mois?
Oui, ça peut prendre un an et demi.
Aïe, aïe, aïe.
Et puis, c'est rare que ces rapports-là sont rendus publics et c'est rare que ça débouche en des accusations. Donc, c'est sûr que quand le rapport va être complet, on va avoir plus de réponses de leur part, mais est-ce que les gens vont encore... écoutez, ouais. Je sais pas. Mais bref, ça peut être très, très long. Fait que c'est pour ça que là, on essaye de gratter ailleurs des témoins, des gens qui étaient là. Le SPVM nous a confirmé un petit peu de circonstances. Mais à part ça, c'est très difficile.
Puis l'identité du tireur, on va-tu le savoir un jour?
Non, très bonne question. Ben moi, je pense que non, personnellement. Okay. Parce que dans ce cas-ci, ce qui est spécial, c'est que c'est un suspect, mais c'est également une victime parce qu'il est décédé. Donc, au sens du bureau du coroner qui enquête sur les décès nébuleux, c'est une victime. Et le bureau du coroner n'est jamais obligé de divulguer l'identité de quelqu'un. Il le fait lorsqu'il a l'autorisation de la famille. Dans ce cas-ci, on n'a pas eu l'autorisation de la famille, donc le coroner ne le dit pas. Portion suspect maintenant. Suspect, on peut avoir le nom du suspect lorsque cette personne-là va comparaître en justice. Si les policiers arrêtent quelqu'un, ils vont jamais, jamais nous donner le nom jusqu'à temps que la personne comparaisse en justice parce que ça arrive souvent que finalement, il n'y a pas d'accusation, finalement, on s'est trompé de suspect. Donc, l'homme est décédé, donc il ne va jamais comparaître en justice. Donc, on n'aura pas cette petite pogne-là pour avoir son identité.
Fait qu'on on joue sur le entre les lignes de la loi qui fait en sorte qu'on n'aura jamais l'identité du suspect.
On est dans une zone grise totale. Puis je sais que c'est confrontant puis c'est frustrant pour certaines
personnes.
Oui,
bien, je sais que nos auditeurs, cette semaine, réagissaient puis disaient, ben voyons donc, crime, c'est d'intérêt public. On n'a jamais eu un événement comme ça. Puis avec raison, je leur donne raison. Mais c'est ce qui s'est produit. Bon, t'as rencontré ce bon Samaritain-là. Lui, dans le fond, explique-nous, l'accident arrive, le face-à-face arrive, il est pas loin. Comme bon citoyen, il se dit, je sors de mon char puis je m'envoie deux.
Exact. Comme plusieurs personnes feraient pareil.
Là, ben oui.
Tu vois un accident à côté de chez vous. En plus, lui avait une formation de premier secours. Donc, débarqué, est allé voir l'état de la situation. Le suspect essayait de sortir de son véhicule, il était coincé. Là, il court entre les deux véhicules accidentés, regarde ce qu'il peut faire. Finalement, il finit par revenir vers le véhicule du suspect.
Le suspect essayait de défoncer son pare-brise, c'est ça qu'on comprend?
Exact, il essayait de sortir de son véhicule. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui est arrivé avec un marteau puis qui a réussi à casser la vitre. Donc, le suspect était capable de plus parler aux gens.
Okay.
Puis quand le bon Samaritain est revenu voir le suspect puis qu'il n'y avait plus personne autour de lui, c'est là que ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était complètement désorganisé, il était agité, il cherchait quelque chose. Puis lorsqu'il a trouvé son fusil, il l'a pris et il a tiré sur le bon Samaritain.
Tabarouette, quelle histoire invraisemblable. Fait que là, à ce moment-là, lui, il est seul avec le suspect, il reçoit la balle. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur le dos, il s'accroupit, il n'est plus capable de bouger, dans le fond?
Il m'a décrit qu'il était penché lorsqu'il a reçu la balle. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il a vécu le choc. Puis lui, a une petite formation en premier secours. Donc, tu sais, il a essayé de mettre de la pression, empêcher le saignement. Mais je pense que très rapidement, il y a des gens qui sont venus le voir. Les gens ont entendu les coups de feu. Les services d'urgence sont arrivés pas longtemps après. Prise en charge. Il y a la balle encore en lui. Transporté à l'hôpital. On regarde les blessures. Et ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a aucun organe qui a été touché. C'est vraiment un miracle. Là. Les médecins n'en revenaient pas là, parce qu'il a vraiment été chanceux. La balle a traversé son corps, mais a évité tous les organes.
Ouais, je suis très content parce que, justement, on l'appelle le bon samaritain. Et c'est vrai, là, il a porté assistance à quelqu'un et malheureusement, ça s'est retourné contre lui. Dans cet accident-là, on voit des photos. Les deux voitures étaient très endommagées. Là, donc, est-ce qu'il avait réussi à avoir un contact avec l'autre victime de l'accident, autrement dit?
Le bon Samaritain?
Ouais.
Oui, c'est ça, il est allé voir, c'était une jeune femme dans l'autre véhicule, une jeune femme dans la vingtaine, puis il a essayé de l'aider aussi, elle était coincée également. Tu sais, quand le choc arrive, souvent les véhicules s'écrasent, puis on ne peut plus en sortir. Puis là, je pense qu'il y avait une autre bonne Samaritaine qui était là, qui était une infirmière, qui est venue lui porter assistance. Lui s'est assuré que l'infirmière avait accès à la victime, donc il a réussi à décoincer la porte. Puis après ça, après tout ça, c'est là qu'il est retourné voir
le suspect. Qui était agité. Comment se porte-t-il? Est-ce que, tu sais, quand est-ce qu'il va pouvoir venir au travail? Quel traitement il doit subir? Tu sais, parce qu'il s'est quand même fait tirer dessus.
Carrément, là. Il a eu sa chirurgie samedi dernier. Lundi, il sortait déjà de l'hôpital et il est capable de marcher sur deux jambes sans assistance.
C'est incroyable.
Par contre, c'est sûr qu'il me dit, je marche pas vite. Pas très, très mobile. Donc, il a un arrêt de travail pendant 4 semaines.
Okay.
Il ne peut plus pratiquer de sport, d'activité trop physique.
Mm-hmm.
Puis c'est la physiothérapie qui a commencé mercredi.
Son mental était comment?
Moi, j'étais quand même impressionnée de le voir aussi calme que ça. Je vous dirais, je pense que c'est arrivé tellement rapidement. Il y a tellement de détails qu'on ne sait pas encore sur les motivations du tireur. Je pense que pour le moment, il se considère chanceux.
Mm-hmm.
Puis il attend vraiment les conclusions de l'enquête pour se faire une meilleure tête. Mais tu sais, ça me semble une personne qui est très calme, qui a un bon sang-froid, puis qui s'en fait pas trop avec ça dans la mesure du possible. Mais tu sais, je pense aussi que c'est frais, puis il n'y a pas encore tout.
Oui, c'est ça. Y était-tu fâché de ne pas avoir plus d'informations comme la plupart des gens à Québec, ou lui, ça le perturbe pas?
Je ressentais pas de colère. Je pense qu'il comprend que c'est des enquêtes qui peuvent être longues, mais c'est certain qu'il dit qu'il a extrêmement hâte d'avoir plus de réponses, puis il dit que quand les résultats des enquêtes vont être publics, il va être en mesure de plus réagir puis de plus commenter publiquement tout ça, parce que là, pour le moment, il est en réhabilitation, il veut se faire un petit peu timide.
Ouais. Est-ce qu'il va continuer d'être un bon Samaritain?
Bien, je pense que oui. Tu sais, je pense qu'il a tellement reçu une vague d'amour. Les gens, là, depuis que c'est arrivé, m'écrivent tout le temps. Là, le bon Samaritain, comment il se porte? On veut de ses nouvelles.
Mm-hmm.
Puis c'est ça que je lui ai fait valoir, parce qu'au départ, il voulait pas qu'on publie
quoi que ce soit. Oui, puis là, il a décidé de demeurer anonyme aussi. Là.
C'est ça. Il a décidé
pour quelle raison il voulait demeurer anonyme? Juste pour pas que plein de monde se mette à l'écrire? Puis...
Exact. Okay. Puis il veut vraiment se concentrer sur sa réhabilitation.
Je
pense que ses proches sont très ébranlés par tout ça aussi.
Ah, oh, c'est clair.
Il veut pas en rajouter.
Il y aurait de la pression sur les proches aussi. Si c'est vrai.
Exact, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est réhabilitation, on se concentre là-dessus, puis on attend l'enquête.
C'est vraiment une histoire invraisemblable, mais on est vraiment content que le bon Samaritain est bien à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Victoria Barry, de nous avoir rapporté ces informations-là. Good job d'avoir réussi à rencontrer le bon Samaritain. T'es vraiment une bonne journaliste. Puis on se reparle bientôt.
Mais merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Après la courte pause, on fait un dernier petit tour d'actualité, puis je veux vous parler de l'intégrité de la Ligue nationale de hockey qui serait mise en danger par des achats d'actions à la bourse, mais qui ne sont pas vraiment des actions. Bref, une affaire vraiment bizarre qui va se produire à la Bourse de New York à compter du mois d'octobre. Petit rappel météo à 13h48. Une belle journée aujourd'hui. 24 degrés ensoleillé. Demain aussi, 24 degrés ensoleillé. 17 degrés en soirée. Ça va être très confortable, mais de la pluie qui va commencer dans la nuit. Et 60% de possibilité d'averse pour dimanche avec 20 degrés. Circulation, Mathias?
Oui, pas le choix de faire un dernier tour à la circulation là, parce que l'accès au pont Pierre-Laporte présentement qui est très, très difficile là, sur Henri IV, ça remonte jusqu'à Capitale pour le moment que c'est complètement
bouché sur Duplessis en direction sud. Ça remonte jusqu'à la 40. Donc, c'est un bon ralentissement d'heure de pointe, j'ai envie de dire, malgré le fait qu'il est seulement à 13h48 en ce moment. On est vendredi. Hein. Capitale direction est aussi bouché entre Pierre-Bertrand et boulevard Neuville en direction ouest. Ralentissement qui est surtout concentré à hauteur de Laurentienne. En parlant de Laurentienne, direction sud, quand même pas mal d'attente pour accéder à Capitale. Vous mentionnez aussi que Charest direction est pour accéder à Henri IV, c'est au ralenti. Sur la rive sud, maintenant, 20 direction ouest entre Taniata, président Kennedy, c'est au rouge. Même chose en direction est entre Taniata et Avenue des Églises. Puis je pense que ça fait le tour. Si vous voyez quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à nous texter 418-971-1021.
Merci beaucoup, Mathias. Dans l'actualité, qu'est-ce qu'on doit suivre en ce vendredi après-midi?
Un adolescent qui aurait planifié un attentat sur une école secondaire de Montréal a été arrêté ce matin par la Gendarmerie royale du Canada, la GRC. Le jeune suspect en question qui aurait utilisé l'intelligence artificielle pour planifier son attaque. Le FBI qui a donc eu accès à des informations qui mettaient en question cette attaque potentielle. On a transmis tout à la GRC qui a intervenu ce matin. Ce qu'on nous dit, c'est que les policiers étaient lourdement armés parce qu'on avait des craintes que le jeune suspect puisse être armé lui également. On nous dit que c'est pas juste la menace d'attentat qui est reprochée au jeune homme. Il aurait notamment tenu aussi des propos menaçants sur l'application Telegram, ciblant les musulmans, les haïtiens et la communauté LGBTQ. L'adolescent qui va comparaître cet après-midi en chambre de la jeunesse. Dernière journée de négociation Canada-États-Unis aujourd'hui. Si rien n'est conclu ou qu'on aille n'a pas un autre sursis de Donald Trump, les tarifs douaniers américains qui est de 50% qui rentreraient en vigueur à minuit ce soir. D'ailleurs, la dernière ronde de négociations qui a présentement lieu du côté américain entre Dominic Leblanc et Jameson Greer. Pas le choix de revenir sur ça aussi. Olivier Primo, qui ne va pas se présenter pour la CAQ, mais que c'est désormais officiel, va être payé par la CAQ pour faire le tour du Québec, pour faire la promotion de la coalition Avenir Québec et de ses
idées. Le meilleur ami de Christine Fréchette.
Olivier Primo qui va donc embarquer dans ce qu'on appelle la Primo Mobile, une caravane de la CAQ pour faire le tour de la province. Ce qu'on nous dit, c'est que les milliers de dollars donnés à Olivier Primo seront mis dans le budget électoral de la CAQ. C'est une première au Québec engager un influenceur pour faire ce type de choses.
Comment trouvez-vous cela, cher ami? 418-971-1021. Moi, je vois là une stratégie de campagne inédite, jamais vue de la part de la CAQ. Les dépenses vont être justement comptabilisées dans les dépenses électorales. Olivier Primo aurait promis de donner le tout à un organisme de charité ou à plusieurs organismes de charité. Donc, je vois là juste une nouvelle façon de faire de la politique. Il y a plusieurs personnes qui se questionnent sur l'éthique d'une telle pratique. Alors, textez-nous, 418-971-1021, si vous avez le goût d'en jaser.
Le chef du Parti libéral, Charles Milliard, qui a fait un point de presse plus tôt aujourd'hui du côté de Lévis, il s'est engagé à 4 promesses fortes envers les entreprises et les PME d'ici. Les principales, là, je passe rapidement, on va mettre fin au principe du plus bas soumissionnaire, c'est ce qu'on a annoncé. Également, on prévoit que l'État paie les entreprises avec qui elle fait affaire dans un délai d'au plus 20 jours. Et je termine avec des caméras d'intervention qui seront installées d'ici un an sur des milliers de policiers montréalais et des centaines de véhicules de patrouille. C'est ce qu'on nous a appris dans un point de presse du côté de Montréal aujourd'hui. Le service de police de la ville de Québec qui a répondu à ça en disant que de son côté, on n'évalue pas cette possibilité-là. Si jamais le gouvernement provincial met un plan en place qui comporte des caméras, ben là, on va embarquer à ce moment-là. Mais de prendre sa propre initiative comme le fait Montréal, c'est pas dans les plans du côté de Québec.
Du côté d'Olivier Primo, on a un auditeur qui nous dit « C'est juste de la bullshit. Il est full plugué avec les influenceurs. Les ministres le savent bien. Sébastien nous écrit une belle idée. Mais pour tout le monde qui ne l'aime pas, ça n'aidera pas à voter pour le parti si c'est pas le contraire. » En effet, c'est un pari, c'est un couteau à double tranchant, comme on appelle Sébastien. C'est curieux, mais je pense qu'il surestime comment un influenceur peut changer quoi que ce soit un point de vue politique. Quoique la naïveté des humains ne me surprend plus vraiment en 2026. Mais en effet, puis c'est ce qu'on a parlé avec Étienne-Alexandre Beauregard aux alentours de 12h30. On se disait que c'est une nouvelle stratégie électorale. Puis les résultats vont faire foi de tout. La CAQ tente de se rapprocher d'un électorat plus jeune. Si ça n'a pas de résultats, ça ne sera pas reproduit.
Mais si ça a des résultats,
ça va être reproduit. Hey, je termine le petit deux minutes qui nous reste, Mathias, en te parlant de l'intégrité de la ligne nationale qui pourrait être mise à mal. C'est qu'à compter du 28 octobre prochain, à la Bourse de New York, tu vas pouvoir acheter des actions des 32 équipes de la Ligue nationale. Mais ce n'est pas nécessairement des actions, parce qu'on le sait, c'est des groupes privés qui ont ça. C'est que tu vas pouvoir acheter des actions fictives qui comptent pour des points selon les performances d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Fait que c'est un peu comme un pari sportif.
Fait que dans le fond, la bourse ouvre des paris sportifs.
En plein ça. Chaque équipe va avoir un fonds de 7500 points. Il va avoir 55 marqueurs de performance. Puis là, tu vas pouvoir dire, bon, ben moi, j'achète, exemple, 100 points parce que le Canadien va être la meilleure équipe défensive du prochain mois. Moi, j'achète, exemple, telle chose, et tu vas pouvoir revendre ces actions-là selon la valeur avec le classement de l'équipe. Pourquoi je dis que c'est l'intégrité qui pourrait être mise à mal? Mais c'est parce que dès que tu rentres des paris dans le sport, il peut y avoir certains au bonnet qui vont commencer à essayer de s'associer avec des joueurs de hockey. Est-ce qu'il peut y avoir des joueurs qui vont livrer une moins bonne performance? Est-ce qu'il peut y avoir des entraîneurs qui vont être justement touchés par cette spéculation-là? Je trouve vraiment pas que c'est une bonne idée de la Bourse de New York de se lancer dans un pari sportif aussi malhabile.
Mais moi, tu vois, là, je veux dire, à partir du moment où c'est possible de faire des paris sportifs, déjà, je vois pas nécessairement de problème. Pour de vrai, là, au final, je trouve que c'est un pari sportif comme un autre, mais sur le long terme, j'ai envie de dire ça comme ça. Là. En tout cas, de la façon que tu me le présentes, là, je vois pas nécessairement une dérive qui mettrait plus à risque l'intégrité que ce que des dizaines de plateformes de paris sportifs en ligne peut mettre en place présentement.
C'est un bon point. C'est juste parce que tu as l'action que tu peux revendre que moi, je vois une situation différente.
En même temps, c'est que là, tu vas pouvoir la revendre à d'autres personnes, un peu comme fonctionne la bourse au final. Ouais. Mais sur les sites en ligne, tu peux revendre techniquement ton pari avant la fin de ton pari. Mm-hmm. Ta cote, elle change en temps réel aussi. Je sais pas à quel point c'est c'est différent, mais j'ai hâte de voir comment ça va évoluer tout ça.
En effet, le retour de Gravel arrive à l'instant même avec Denis Véro et Audrey. Nous, on se reparle la semaine prochaine à midi dans l'émission On en jase. Bonne fin de journée, guys.
Bonne fin de semaine.
Ne